בעזרת השם, mes amis, בשם השם נעשה ונצליח. Avec l'aide de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne de la force de pouvoir commencer beaucoup, toujours, tout le temps. Des commencements et des commencements, car l'essentiel, c'est toujours le commencement. Et quand ça ne fonctionne pas dans la vie, et ben on recommence et on recommence. Et c'est comme ça qu'on avance réellement. L'essentiel, c'est pas d'arriver, mais c'est de commencer. L'essentiel, c'est pas d'atteindre, mais de se battre dans le chemin. Donc, Bezrat Hashem, suite à une termination de Sichot Aran, du livre de Sichot Aran qu'on a terminé, Baruch Hashem, alors on va commencer un nouveau livre, un nouveau projet, tout un nouveau monde, mes amis. C'est un nouveau monde, ne vous attendez pas à ce que ça continue de la manière que vous avez été habitué de parler, de genre de conversation qu'on a été habitué. C'est tout un autre monde. Un livre, chaque livre, c'est un monde. Surtout le livre qu'on va étudier, c'est un monde très 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 spécial. C'est pas un monde qui est normal. C'est un livre, c'est le feu de Breslev. C'est le livre de la vitalité où Rabbi Nathan, il va... D'abord, il faut que vous compreniez que c'est le dernier livre que Rabbi Nathan a écrit et qui n'a pas réussi à le terminer, tellement c'était un livre important. Rabbi Nathan n'a pas imprimé ce livre, le Chaye Moharan. C'est pas Rabbi Nathan qui l'a imprimé, parce que le Chaye Moharan, c'était le livre que Rabbi Nathan, toute sa vie, il mettait de côté. À chaque fois qu'il se rappelait d'une parole, à chaque fois qu'il entendait une parole de Rabbeinu, il allait dans sa chambre, il écrivait, et il a sculpté de bonne manière qu'elle puisse sortir de ça quelque chose de compréhensible. C'est un travail, c'est un brevet, on dit un brevet de toute une vie. Rabbi Moran, c'est un brevet de toute une vie, et c'est Rabbi Nachman de Tcherim, c'est-à-dire une génération plus tard, qui a imprimé le livre que Rabbi Nathan a compilé, écrit, pas compilé, parce que c'est plutôt écrit, il a vraiment écrit...
Mais c'est que de lui, c'est écrit ou
il a écouté à droite à gauche ? Alors c'est des choses qu'il a entendues à droite à gauche, c'est bien sûr des choses que Rabbi Nathan, il a entendues que des gens qu'on peut s'appuyer sur eux, mamash, bien sûr, il n'a pas fait rentrer des choses... On va ce soir, Bezrat Hashem, lire l'introduction du Chaye Moharan, qui est très 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 importante. L'introduction du Chaye Moharan, très importante. On va la lire bien comme il faut, on va prendre notre temps. Parce que, sachez mes amis, des fois, on étudie un livre et on n'étudie pas l'introduction. Il faut savoir que quand on lit un livre sans lire l'introduction, c'est comme si on a lu le corps, mais pas la Neshama. Parce qu'on ne comprend pas c'est quoi qui a fait pousser à Rabbi Nathan d'écrire ce livre. Il faut comprendre pourquoi un livre, il est son attention. Il faut comprendre pourquoi un livre, il naît dans le monde. Il ne faut pas juste prendre le livre et le lire et comme si s'attaquer, comme si on sait de quoi ça parle. Il faut savoir pourquoi le livre a été écrit, pourquoi il y a eu cette... Un tzaddik, il n'écrit pas un livre. Comme ça, juste, j'ai écrit un livre, mes pensées, mes chidushé Torah, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a un besoin et à travers, suite à ce besoin, les tzaddikim, ils essayent de remplir ce besoin à travers de la conscience, de la connaissance, à travers un livre, que ce livre, en fait, il va donner des clés, il va donner des cartes pour qu'on puisse comprendre encore plus les chemins, comment servir à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça, normalement, tous les livres. Donc, c'est pour cela qu'on va aussi aborder la Hagdama. Le Chaye Moharan, mes amis, il faut savoir que Rabbi Naftali, le copain de Rabbi Nathan, son copain intime depuis tous les temps, même avant qu'ils étaient proches de Rabbeinu, c'était des copains intimes. Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, les deux élèves les plus proches de Rabbi Nachman de Breslev, les deux élèves qui ont été très 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 ensemble pendant tout le chemin et que les uns et les autres, c'est-à-dire Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, toujours se chauffer, se s'allumer. On va chez Rabbeinu, on va pas chez Rabbeinu, on marche à pied, on marche pas à pied, et on fait comme ça. Toujours Rabbi Nathan, il allait demander à son ami Rabbi Naftali, qu'est-ce que t'en penses que comme ça, oui. Mamash, ils étaient ensemble. Et Rabbi Naftali, lui, c'est le premier que à chaque fois qu'il était en voyage avec Rabbeinu, il était très souvent en voyage avec Rabbeinu, il avait dans sa poche un cahier. Et toutes les paroles de Rabbeinu, il les écrivait dans le cahier. Toutes les paroles. Et des années après que Rabbeinu il est niftar, Rabbi Nathan a découvert ce cahier. Et quand il a vu ce cahier, il a dit, comment tu m'en as pas parlé de ce cahier qui est aussi important? Et c'est, ça a été ce cahier-là qui a commencé à créer le livre du Chaim Oran. C'est à travers les paroles et les phrases que Rabbi Naftali il a entendues de Rabbeinu et qu'il les a écrites, des paroles et des phrases qui ont été très 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 dures, très fortes, très puissantes, des mots et, qui changent toute l'envergure dans laquelle on connaît Rabbeinu.
Alors, connu, Rabbi Naftali, il a connu Rabbi Nachman avant,
Apparemment, tout apparemment avec Rabbi Nathan. Non, c'est Rabbi Lipa. Rabbi Lipa qui est là. Rabbi Nathan et Rabbi Naftali se sont rapprochés apparemment tout.
Ils ont le même âge les deux plus ou moins.
Ils ont le même âge. Ils étaient le copain avant. Ils se sont mariés plus ou moins apparemment. Ils ont grandi dans la même ville, dans la même école. Des copains d'enfance, maman. Des vrais amis intimes. Des vrais amis. Le chavruta de Rabbi Nathan dans beaucoup de choses. Et un jour, Rabbeinu, il a dit, de moi, il n'y a que Nathan et Naftali qui connaissent quelque chose. Ça veut dire, parmi tous les élèves, il n'y a que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali qui un tout petit peu, ils ont compris Rabbeinu. C'est pour ça que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali sont très présents dans l'historique Breslev. Mes amis, Rabbi Nachman de Breslev a écrit plein de livres. On peut s'arrêter à ces livres de Rabbi Nachman. On peut s'arrêter. On peut lire les livres de Rabbi Nachman, voir la sagesse qu'il y a dedans et s'éblouir en apprenant tous les conseils, en s'attachant aux conseils, en appliquant aux conseils. Mais sachez que Breslev, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Rabbi Nachman, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Dans le monde aujourd'hui, petit à petit, on voit comment le monde commence à ramener Rabbi Nachman. Aujourd'hui, c'est presque une mode que chaque rabbin, il commence à faire des cours sur Rabbi Nachman et de parler de la grandeur de Rabbi Nachman. Comme Rabbeinu, il a dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue de Mashiach. Et on voit que Mamash, la pensée de Rabbeinu à Kadosh, elle est propagée partout dans le monde et tout le monde parle de l'intelligence et de l'idée, de la vision que Rabbeinu a dévoilé dans le monde phénoménal. Tout le monde parle des grandeurs de ça. Mais encore une fois, mes amis, il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup, 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 beaucoup plus que ça. Et celui qui s'arrête juste à l'idée, à la vision et au conseil que Rabbi Nachman y dévoile dans le monde, c'est énorme, mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a chez ce tzaddik-là. Ce tzaddik-là, Rabbi Nachman de Breslev, a la possibilité de nous donner énormément, beaucoup plus que cela. Et c'est qui nous a donné les ustensiles pour découvrir qu'est-ce que c'est un tout petit peu Rabbi Nachman, beaucoup plus que ce que de sa Torah? C'est Rabbi Nathan à travers le livre Chaye Moharan. Comment? Voilà. D'abord, mes amis, il faut que vous sachiez que Bezrat Hashem, je voudrais que comme on avance dans notre étude, ça serait bien si chacun il a son livre, Bezrat Hashem. On va essayer la semaine prochaine d'amener des livres. Et là, il y a des livres à vendre, celui qui veut. Il n'en reste que trois. Donc, ça serait bien si on pourrait, parce que je voudrais qu'on lise dedans, comme ça, c'est important qu'on voit ce qu'il y a écrit, ça imprègne plus. Ça, c'est à part, d'accord? Ce que je veux vous dire, c'est que Rabbi Nachman, dans le Chaye Moharan, il nous a raconté un petit peu c'est qui Rabbi Nachman, c'est quoi sa Torah, et ceux qui seront ses élèves, quel mérite ils ont. Vous imaginez de quoi on parle? C'est ces trois points essentiels qu'il y a dans le Chaye Moharan. La vie de Rabbi Nachman en général, en racontant c'est qui Rabbi Nachman et qu'est-ce qu'il fait dans le monde. L'importance de sa Torah, mais encore plus de celui qui se rapproche de lui. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir ces choses-là? Parce que Rabbi Nachman de Breslev, ce n'est pas un penseur comme on pourrait dire. Il y a eu plein de penseurs, il y a eu plein de mots et de paroles sympathiques dans la philosophie qui se dit, qui se raconte. Bien à entendre. Vous savez, aujourd'hui, on peut lire des livres sur la philosophie de vie. On peut voir sur Facebook, sur TikTok, des phrases petites comme ça que tu entends ou que tu vois.
Qui font du bien.
Qui font soi-disant du bien. Mais en vérité, mes amis, c'est de l'air. Même si c'est beau, c'est important, c'est bien, ça rentre dans une oreille, ça sort dans une autre oreille. Rabbi Nathan, il va venir, il va dire ce que Rabbi Nachman a fait dans le monde, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas des petites phrases, c'est pas juste des renforcements. Quand il crie le désespoir n'existe pas, c'est pas juste une phrase qu'il a dit, c'est pas juste le désespoir, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus que ça, il y a un puits énorme qu'il faut rentrer dans les profondeurs et prendre de là-bas cette eau qui est douce et qui est agréable. C'est quoi le but de ce livre, mes amis? Le but du livre qu'on va étudier, le livre Hayem Oram Bezrat Hashem, si Hashem nous donne la force et le pouvoir avec vous, Bezrat Hashem, c'est de savoir, mes amis, de connaître comment ce monde fonctionne, comment réagir à ce monde, et à qui s'attacher, et de qui apprendre, et jusqu'à où il faut aller s'attacher pour vivre dans ce monde, hein, une vie qui soit paisible. C'est ça ce livre. Ce livre-là, il va nous raconter des histoires, il va nous raconter des chemins, des choses que Rabbeinu il a fait, des paroles, beaucoup de paroles. Vers la fin, il y a la majorité du livre, il y a à peu près 200 pages, que des paroles dans la Avodat Hashem. Comment faire, comment réfléchir, comment penser, des choses très importantes. Rabbeinu il va dévoiler la grandeur de ces Torot, combien ces Torot ils sont grandes, combien ils aident, combien ils sont puissants, comment il faut les regarder, comment il faut les étudier, comment il faut les voir, comment il faut les ressentir, et ainsi de suite. Après, Rabbeinu il va parler aussi de sa grandeur à lui personnelle. Alors ça sera un très grand sujet de conversation qu'on va parler, parce que les phrases qui sont dites là-bas, ce sont des phrases qui sont très dures à entendre. Pourquoi ils sont durs à entendre? Pas parce qu'ils sont durs à entendre. Ils sont durs à entendre parce que le monde dans lequel on vit, on est tellement abruti, tellement sali dans notre cerveau, que quand on entend quelqu'un qui dit « une nouveauté comme moi n'a jamais eu dans le monde », tout de suite, on a l'espèce de mafieux, ou alors du plus fort de la classe, ou alors de quelqu'un qui vient et dit « ouais, c'est moi ici qui mets les trucs », etc. On a des mauvaises interprétations dans notre cerveau qui vont faire en sorte qu'on va mal interpréter les paroles. Mais en vérité, Rabbi Nachman de Breslev, c'était un homme qui est mort à 38 ans, qui a été malade toute sa vie, qui a été rejeté toute sa vie. Et de son vivant, il a été pauvre, et sa vie n'était pas rose, comme on le sait, ni lui, ni ses enfants. Il a souffert toute sa vie, et tout ça avec la plus grande humilité. Rabbeinu a dévoilé des conseils, des réparations et des torotes comme auparavant il n'y a jamais eu autant, comme Rabbi Nachman nous l'a dévoilé, en plus de son langage facile qu'il a parlé. Normalement, les tzadikim, ils parlent des langages qui sont compliqués. Regardez tous les autres hassidim, regardez tous les autres tzadikim. Tout ce qu'ils ont parlé, c'est des langages qu'on ne comprend pas. C'est des livres qu'on n'arrive pas à étudier. C'est des livres que c'est très dur, c'est compliqué. Et Rabbeinu, il a choisi la simplicité comme sa couronne. Il a parlé de la simplicité, il a donné de la force aux gens simples. Et il a dit aux gens qui sont un peu intellect, soyez des gens simples. Rabbeinu, il a encouragé la simplicité, la tmimout et la pshitout, les choses les plus banales possibles, car c'est ça la perfection. Et quand on regarde un petit peu les paroles et les phrases de Rabbeinu à Kadosh, on voit que Rabbeinu, il a choisi un chemin que ce chemin, peu de gens ont choisi. Et Rabbeinu nous le donne en cadeau, que nous aussi on puisse avancer dans ces belles. Donc maintenant, ce que j'ai à dire, c'est venez tous ensemble, mes amis, on essaye de rentrer et de découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est le livre Chaye Moharan, les vies de Rabbeinu. Pourquoi les vies de Rabbeinu? Normalement, la vie de Rabbeinu. Pourquoi les vies de Rabbeinu? Parce qu'un jour, Rabbi Nachman de Breslev a dit, j'ai vécu plusieurs vies. Dans une seule vie, j'ai vécu plusieurs vies. Et je vis à chaque fois des nouvelles vies. Tout le temps, je vis des vies et des vies. On ne peut pas comprendre exactement ce que ça veut dire, mais Rabbeinu a sorti cette phrase. Et c'est pour cela qu'on va voir ici, dans ces histoires, tout le chemin que Rabbi Nachman il a fait.
C'est bien les trachout?
Non, c'est des autres choses. Maintenant, il faut savoir une chose. Le livre Hayem Oram, il est compilé à travers les villes qu'il a voyagées. Normalement, comment on écrit un livre? Normalement, si on veut écrire une... Par rapport au temps, par rapport... Chronologiquement, d'accord? Là, Rabbi Nathan, il a choisi d'écrire le livre à travers les villes dans lesquelles il a passé. Parce que Rabbi Nachman de Breslev, toute sa vie, 38 ans de vie, il était tout le temps en chemin. Non, c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit, qui l'a préparé, qui l'a tout fait, qui l'a depuis le début jusqu'à la fin. C'est un livre qui est, on va dire, originel, de la première, du premier, première, d'or, première génération. Ça fait partie des livres qui n'ont rien bougé, qui n'ont rien. C'est les premiers livres, les premiers livres, les fondements de Breslev. C'est-à-dire, tant. Ben, je ne sais pas combien. Non, pas un par semaine, mais on... Non, ça ne sera pas comme ça.
On va voir au fil de l'eau.
Au début, on va lire, on va peut-être sauter quelques paragraphes, parce qu'au début, ce sont des notations sur des torotes où il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Donc, ça fait partie du livre, donc on va les lire, mais il n'y a pas exactement des choses à dire dessus. C'est juste des dates, quand, rappelez-nous, il a donné la Torah à 25. C'était un truc, et comme ça, il y a plusieurs... Mais Bezrat Hashem, après, au fur et à mesure qu'on va un petit peu avancer et découvrir certaines choses, ce livre, c'est un Me'ata Kamut Vera Va'ekut. Comment on dit ? C'est un petit qui contient un grand. Ça veut dire il y a pas ici comme le Sirat Haran. Le Sirat Haran, on était habitué que chaque semaine, on a un thème. Chaque semaine, on parle d'un thème. Dans Chayim Oharan, ça ne va pas être comme ça. Dans Chayim Oharan, on va prendre un thème et on va l'étudier, on va en parler. Des fois oui, des fois non. Des fois ça va être des histoires, des fois ça va être des paroles, des fois ça va être un fait qu'il a fait qu'il faudra l'expliquer. Une fois ça va être une phrase qu'il a dit qu'il faudra expliquer. Une fois ça va être une histoire qu'on devra expliquer. Une fois ça va être un enseignement où on ne voit pas le sens, le lien, on ne voit pas trop. Et on va s'asseoir, on va le goûter, etc. Donc en fait, il faut s'adapter, il faut se laisser porter à travers le livre, se bercer à travers le tzaddik Ahmed Bezrat Hashem. Et comme ça, on aura le mérite de le commencer et de le terminer. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, ça sera un très grand scoop.
Le livre Abénou qui est en français, c'est tiré de ça ?
Alors, le livre Abénou, il est tiré aussi de ça, mais pas que de ça. C'est un livre qui a été compilé de d'autres choses, etc. Mais ça, si on peut dire, ça veut dire, si tu veux savoir comment Rabbi Nathan, il décrète la vie de Abénou, c'est ce livre-là. Rabbi Nathan, il dit voilà, tu veux savoir la vie de Rabbeinu, c'est Chaim Moran. La vie de Rabbeinu, c'est Chaim Moran. Maintenant, si tu regardes le Chaim Moran, il ne parle pas que de la vie de Rabbeinu. Il y a plein de. Le Chelek d'Avodat Hashem, comme je vous ai dit, 200 pages, ça ne parle que de l'Avodat Hashem. Alors quoi ? C'est ça la vie de Rabbeinu. Tu veux savoir, moi, ce que j'ai vu de Rabbeinu ? Voilà, c'est ça ce que j'ai vu de Rabbeinu. Bezrat Hashem Idbar. Alors, ça se peut qu'il y a des gens qui vont pas trop comprendre quand à chaque fois on dit Rabbeinu, 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 et se rapprocher de Rabbeinu, pourquoi se rapprocher de Rabbeinu, et où il est Hachem dans tout ça. Alors mes amis, je suis obligé de le dire et je vais le répéter, c'est très important de savoir, vous savez mes amis, quand on était en Égypte, le peuple juif était 400 ans en Égypte, et quoi qu'il se passe, quoi qu'il y avait, à l'époque, en Égypte, on n'est pas sorti d'Égypte. Quoi qu'il s'est passé, les tzadikim qu'il y avait à cette époque, il y avait qui comme tzadik à l'époque ? Il y avait Aaron HaKohen, il y avait Caleb Ben Yefouné, il y avait Yoshua. Non, pas, il n'y avait pas encore Yoshua. Yoshua, il était encore bandit, c'était un bandit d'abord. Et il y avait à l'époque les 70, les Shivim Skenim, il y avait les 12 Nessim, c'était des tzadikim tout cela. Comment ça se fait qu'eux, ils n'ont pas pu faire sortir le peuple juif de l'Égypte ? Comment c'est possible ? C'était des tzadikim, mais pas des petits. Il y avait Nachshon ben Aminadab, celui qui a marché dans la mer. Nachshon ben Aminadab, c'est pas un petit. Comment Nachshon ben Aminadab, il n'a pas fait sortir le peuple juif d'Égypte ? Comment ?
Je dis que le Balbeur avait l'emprise sur eux.
Oui, ben alors, par le mérite, je te parle du mérite. Nachshon ben Aminadab, comment son mérite à lui, il n'arrivait pas à prendre tout le peuple ? Comment Aaron HaKohen ? Comment Caleb ben Yefouné ? Quoi ? Comment le mérite à eux, l'ont pas. Comment c'est possible ? C'était des tzadikim qui étaient énormes. Alors, mes amis, il faut savoir une chose, mes amis. Tant que Moshe Rabbeinu n'est pas venu en Égypte, la Géoula ne peut même pas être prononcée.
C'est un fait.
Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de Dieu, Isha Elohim. C'est Dieu qui l'a désigné. Il a désigné Moshe Rabbeinu comme le Emtsaï Kaviachol, comme le milieu, comme le moyen, le parlement, à travers la divinité et les êtres humains.
Il a été décrété avant qu'il naisse ?
Il a été décrété avant qu'il naisse ?
Ou après l'histoire de la drobie,
machin ? Non, je crois que ça a été après, je ne sais pas te dire. Okay. Je ne sais pas, Bémet, je ne sais pas, il faudrait voir. Mais en tout cas, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait sortir le peuple juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir, mes amis, quelque chose. On a le devoir de chercher le tzaddik authentique du niveau de Moshe Rabbeinu. On a ce devoir-là parce que notre délivrance générale et notre délivrance personnelle en dépend. Tant qu'on ne cherche pas le tzaddik authentique, on a un problème qu'on ne peut pas avancer et les choses ne peuvent pas avancer au niveau général et au niveau particulier, mes amis. Maintenant, ça veut dire quoi de chercher un tzaddik? De chercher un tzaddik, c'est pas de chercher de prendre le livre, comment on dit, les livres des téléphones. Tu prends le livre des téléphones et tu vas chercher un tzaddik. C'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de chercher un tzaddik en fonction de comment il est beau, comment il est grand, comment il a une belle voix, ou alors des beaux livres ou des beaux élèves. C'est pas comme ça qu'on cherche un tzaddik. Un tzaddik, on doit chercher à travers les phrases que la personne elle dit, qu'elle écrit, qu'on sait qu'il a reçu de tout l'âme Israël et qui est fort et qui est grand du même niveau que Moshe Rabbeinu. Car la Gemara nous enseigne que chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu qui est dans la génération, pas obligatoirement vivant, mais même son esprit à lui. Et nous, on doit chercher son esprit, on doit chercher ses écrits. C'est comment on cherche? Eh bien, on commence à feuilleter, à regarder dans la Torah, à essayer de voir les livres des gens qui écrivent. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me donne de l'espoir? Qu'est-ce qui me donne de la Emouna? C'est qui m'apprend à faire teshuva? C'est qui apprend à briser mes ta'avot, à briser mon honneur, à briser l'argent, à briser les femmes et les aliments? C'est qui m'enseigne ces chemins-là? C'est qui me rend d'un animal un être humain? C'est ça qu'il faut chercher.
Mais comment on peut savoir qu'il est du niveau de Moshe?
Alors, on ne peut pas savoir qu'il est du niveau de Moshe. Mais en fonction de combien cet homme-là, il aura de l'influence sur toi et qu'il va faire de l'effet sur toi, comme ça tu comprends que sa puissance, elle est mondiale. Elle n'est pas juste personnelle. Mmh. Et aussi, un tzaddik comme Moshe, il est reconnu par tout le monde comme Moshe, plus ou moins. Donc on a le devoir. Maintenant, il y a celui qui lit, les choses y sont écrites noir sur blanc, il n'y a pas besoin de... On sait c'était qui les premiers. Moshe Rabbeinu est revenu dans Rabbi Shimon Bar Yochai, après il est revenu dans le Harizal, après il est revenu dans le Baal Shem Tov. C'est des choses qui sont écrites dans des livres. C'est des livres qu'ils ont écrits eux-mêmes, le Harizal, Rabbi Shimon, et eux, ils n'ont jamais été mis dans le point d'interrogatif. Jamais ils ont été mis dans le... Et eux, ils ont dit, on est l'année Shabbat, Moshe Rabbeinu, on est revenu pour amener une nouvelle Torah, pour dévoiler un nouveau concept, pour donner l'espoir au monde, pour essayer de rapprocher le peuple à Kadosh Baruch Hu. Ils l'ont dit. Donc nous, notre devoir à nous, c'est de chercher. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslav aussi, il a dit, et les tzadikim ont dit sur lui, que c'est un tzadik, qu'il a la Neshama de Moshe Rabbeinu qui est venu faire descendre dans ce monde une nouvelle Torah, une Torah qui nous aide à appliquer la Torah originelle, la Torah qui essaye de nous construire, de nous donner le bon sens, de nous réparer, de nous apprendre à faire teshuvah, de nous apprendre à avoir de la Emouna envers Hachem, de se rapprocher des tzadikim, d'annuler notre ego personnel. Ça, c'est le travail d'un tzadik. Maintenant, ce tzadik-là, il a donné des conseils, il a raconté des histoires, il a dit des conversations, il a écrit des enseignements, il a écrit même des prières, il a donné la racine sur chaque mitzvah, dans toute Shulchan Aruch, d'où elle vient la racine, qu'est-ce qu'elle est. Quand on lit, quand on apprend, quand on goûte ce que Rabbi Nachman a dévoilé dans le monde, et tous les tzadikim, on a tout de suite une émouna, une foi simple de nos grands-parents, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui descend sur nous, et d'un coup les questions, ils s'en vont. Même qu'au début on avait des questions, d'un coup les questions, ils partent. D'un coup, tu sens que ton cœur est attaché. D'un coup, tu as envie de marcher des pas devant Hachem Yidbar. D'un coup, il y a des choses nouvelles qui se préparent, qui se font. Et ça, c'est grâce à ce genre de tzadikim-là qu'ils ont une emprise qui est énorme et qu'ils nous demandent, ils nous donnent des conseils, ils nous demandent d'appliquer des conseils, de voir est-ce que ça est fait ou ça n'a pas été fait. Maintenant, Rabbeinu a dévoilé quelque chose de très très grand. Il a dit maintenant j'ai besoin, c'est pas juste une question de notion. Rabbeinu, ce livre-là, mes amis, va expliquer quelque chose sans l'expliquer. Rabbeinu, il va nous dire, moi, pour que je puisse réparer le monde, pour que le monde puisse être meilleur, j'ai besoin de quelque chose que les autres n'avaient pas, qu'on fasse. Vous savez c'est quoi ? Qu'on va s'attacher ensemble. Jusqu'à moi, il y avait le maître et les élèves. Il y avait la lumière et ceux qui reçoivent cette lumière. Mais on était très loin, aucun rapport. On ne pouvait même pas parler, on n'était pas... Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, on va créer un concept, pas de corps à corps, un concept dans la notion, dans la conscience, pendant toutes les générations, qu'on va s'attacher ensemble. Ça veut dire quoi, s'attacher ensemble? Oui. Oui. Mais c'était pas un attachement, la vache. On ne parle pas de hit kashrut. On parle d'amour, on parle d'équipe, on parle de classe, on parle de mais d'attachement avec le maître, d'être attaché avec son maître. Comment? À travers la bouche, à travers le cerveau, à travers la pensée, à travers le cœur, je m'attache au tzadik, authentique, etc. De dire, de le vivre, cette façon, cette manière, comme Rabbeinu.
Rabbeinu disait comme ça.
À l'époque de Rabbeinu, il disait, bien sûr qu'il disait. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé dans ça un nouveau monde. Sachez, il dit Rabbi Nachman, que moi, je combats dans le ciel, moi, je fais un effort dans le ciel, je travaille. Mais il y a un lien, on doit avoir un lien, on doit être lié. On doit être lié. Et il dit Rabbi Nachman, et je vais descendre dans votre vie, et je vais vous ouvrir des chemins. Il va se passer des choses avec vous qui sont spéciales. Et avec mes conseils que je vais vous donner, vous allez vivre les situations comme je vais vous l'enseigner. Et suite à cela, vous allez appliquer la raison pour laquelle vous êtes venu dans ce monde-ci, terminer votre but final qui vous appartient, faire sortir de vous le top modèle qui doit sortir de chacun. Mais ça, tout ce livre, Hayé Moharan, va nous enseigner comment s'attacher au tzadik. Comment on s'attache aux tzadikim? Comment on s'attache à eux? On s'attache à eux d'abord. Comment on s'attache à quelqu'un, mes amis? En l'aimant. D'abord, c'est en l'aimant. On ne peut pas s'attacher à quelqu'un si on ne l'aime pas. Comment on aime quelqu'un? Comment on apprend à aimer quelqu'un? Comment? Alors, d'abord, on demande, c'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Entendre des histoires. Quand tu apprends des histoires sur quelqu'un et tu vois ce qu'il a fait, tu as de l'estime pour la personne. Et là, ça crée de l'amour. Et l'amour crée l'attachement. Donc, dans le Chayei Moharan, Rabbi Nathan va nous proposer, va nous faire une vraie publicité, comme si qu'il va nous présenter cette chose. C'est qui Rabbi Nachman de Breslev? C'est quoi Rabbi Nachman de Breslev? Qu'est-ce qui va nous donner la vision dans cette vie? C'est quoi les enseignements? C'est quoi la façon de penser, la façon de voir chaque chose qu'il y a dans ce monde-ci de manière tout bien, de manière que positif, de manière que avec la foi de Hachem, de manière que tout est bon, tout est bien, tout est parfait, tout est un. Cette vision qui est phénoménale, qui ne va pas être juste peace in love, parce que ce n'est pas exactement comme ça. Il y a des endroits où il faut contracter, il y a des endroits où il faut être dans la rigueur. Mais Rabbi Nathan va nous proposer cette marchandise. Cette marchandise-là, il va nous faire toute une déballe. Cette déballe, c'est une déballe, c'est le Chayei Moharan. Il va nous raconter de A jusqu'à Z, plus ou moins ce qu'on peut connaître de Rabbi Nachman de Breslev. Maintenant, pour écrire un livre pareil, mes amis, on ne peut pas être n'importe qui.
Quoi, donc le but, c'est de le découvrir.
De découvrir plus.
Et de s'attacher à lui pour l'aimer.
Plus que ce que on peut le découvrir à travers sa sagesse.
Parfait.
Ça veut dire normalement, quand un sage il écrit un livre, on apprend à travers sa sagesse ce qu'il a fait. Là, Rabbi Nathan, il va nous apprendre. Rabbeinu, à part la sagesse, ça va être beaucoup de cœur, ça va être beaucoup d'amour et beaucoup de...
Dans le but de l'aimer, de s'attacher à lui.
Voilà, et aussi de découvrir une nouvelle facette de Rabbeinu HaKadosh, nouvelle facette d'apprendre qui est lui. Maintenant, mes amis, d'écrire un livre pareil, il faut être un homme, et pas juste qui a un diplôme ou doctorat de safrout, d'écrivain. Personne, Rabbi Israël Ber Odesser, a dit, parmi tous les élèves de Rabbi Nachman de Breslev, personne pouvait écrire. Personne. Personne n'a réellement compris jusqu'à où la pensée réelle que Rabbeinu il avait. Personne. Personne. Que Rabbi Nathan, c'est le seul Rabbi Nathan qui a su descendre dans la kavana, dans la concentration, dans la
comment l'attention. Dit,
dans l'attention que Rabbeinu il avait. Et c'est la raison pour laquelle c'est Rabbeinu lui-même qui lui a demandé d'écrire. Il lui a demandé d'écrire. Et Rabbi Nathan, il a appliqué ce devoir pendant toute une vie en entière. Il a écrit tout ce qu'il y a dans les livres de Breslev. C'est tout Rabbi Nathan qui a, ça a été la plume de Rabbeinu, Rabbi Nathan, le scribe. Et Rabbi Nathan, il va dire ici dans l'introduction qu'on va lire, je demande pardon. Je demande pardon que j'écris ce livre. Parce qu'en écrivant ce livre, c'est certain que je vais rapetissir Rabbi Nachman. Et pas, c'est pas entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas comme ce qu'on écrit dans chaque livre, ouais, c'est pas du tmanique, ça veut dire ce n'est pas la rigolade. Il dit Rabbi Nathan, je sais pas, c'est pour cela, il dit Rabbi Nathan, je l'ai pas imprimé ce livre. Je l'ai pas imprimé parce que par rapport à ce que moi j'ai vu de Rabbeinu, c'est minime. Et même moi, ce que j'ai vu de Rabbeinu, même moi, c'est minime. C'est-à-dire c'est minime de chez minime. C'est-à-dire c'est en mode. En unité, mamache. Donc ça veut dire, il dit Rabbeinu, mais il dit Rabbeinu Nathan, mais que faire? Ce sont des paroles et des phrases que le monde, ils doivent entendre, et ils doivent apprendre, et ils doivent connaître, parce que sinon, on ne peut pas. Donc on va lire une très très belle. Une très belle introduction sur le livre Hayem Oharan, que je me suis dit qu'il faut qu'on l'étudie en prenant son temps. Ouais. Et on va apprendre plusieurs choses, mes amis. Sachez que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan avait une différence d'âge de 9 ans. 9 ans. Quand Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, il avait, à cette époque-là, il avait 22 ans. Et Rabbeinu, il avait à cette époque-là 31 ans. Rabbeinu l'Iniftar à l'âge de 38 ans. Et Rabbi Nathan, il est resté avec Rabbeinu à peu près 9 ans. 9 ans, il est resté avec Rabbeinu. 7 ans.
S'il a connu 31 ans, il est mort 38 ans.
Il est resté avec Rabbeinu 8 ans. Donc il faut voir les âges exacts, mais c'est. Il est resté à peu près 8 ans avec Rabbeinu, un peu plus que 8 ans et demi. Donc,
c'est pas grand chose en fait.
C'est rien du tout. En vérité, c'est rien du tout. 8 ans, c'est quoi 8 ans? Et Rabbeinu, Rabbi Nathan, il y a eu des moments et des endroits où il n'était pas avec Rabbeinu. On va étudier dans le Chaim Oran que pendant 14 mois, il n'était pas avec Rabbeinu. 14 mois, c'est beaucoup, 14 mois.
Sur 8 ans,
c'est 2 ans. Et c'était les jours où il n'a pas dit des Torot. Parce que comme Rabbi Nathan n'était pas avec Rabbeinu, donc les Torot n'ont pas été écrits. Parce que le seul qui savait écrire, c'était que Rabbi Nathan. Ça ne veut pas dire que les autres ne savaient pas écrire. C'est que les autres, ils écrivaient, mais ils n'arrivaient pas à écrire, à saisir ce que Rabbeinu, il voulait réellement dire pour le monde. Et Rabbi Nathan, il était un homme très humble. Il faisait partie dans l'équipe de Rabbeinu des plus jeunes. C'est-à-dire la majorité des élèves de Rabbeinu, ils étaient plus âgés que Rabbeinu à Kadosh. Il faut le savoir, ça. Et Rabbi Nathan, il faisait partie des plus jeunes. Donc, de base, même naturellement, il était humble, Rabbi Nathan, en regardant tous les élèves de Rabbeinu. Parce que tous les élèves de Rabbeinu, il avait des élèves qui avaient 80 ans, 90 ans, 70 ans, 60 ans, 50 ans, quand lui, il avait 25 ans. C'était la majorité de ses élèves. Et Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils faisaient partie des élèves les plus jeunes. Et c'est Rabbi Nathan le plus jeune qui a dû écrire. Donc imaginez-vous, quand il devait écrire devant les autres élèves, avec quelle humilité il écrivait. Parce qu'il savait, c'est qui va... Donc déjà, ce qu'on a, mes amis, c'est... Sachez, mes amis, que même... J'ai lu dans un livre que une université a écrit sur Rabbi Nachman de Breslev, un professeur qui a fait son doctorat sur la vie de Rabbi Nachman. Et il a écrit... Non, mais c'est bien, comme ça fait de la fatza. Et il a rapporté, c'est un homme qui a écrit plusieurs livres sur les chassidim, sur la chassidoute, et il a dit parmi tous les chassidim et parmi toutes les chassidouyot, le meilleur orateur et raconteur d'histoire de son tzaddik, ça a été Rabbi Nathan parmi tous. Et même dans toutes les histoires des chassidim, on a un safek, on a un doute. S'ils ont été faits, s'ils n'ont pas été faits. Parce qu'il y a plein, on dit que les histoires du Baal Shem Tov ont été très trafiquées. C'est pour cela qu'on s'appuie que sur le livre des prodiges du Baal Shem Tov, le chiffre à Baal Shem Tov. Mais après, les autres histoires qu'on raconte, c'est des histoires qui ont été un peu trafiquées, arrangées. Maintenant, le seul dans toute la chassidoute qu'on s'appuie sur lui à 100% et on sait que c'est du véridique, c'est le Chaim Oran de Rabbi Nathan. Et à travers le Chaim Oran, on fait des comptes à travers dans les autres comment ça fonctionne. Et c'est lui le premier. C'est-à-dire même Rabbi Nathan aux yeux des grands professeurs et dans des universités, il a reçu cette approbation comme quoi Mamash, il est reconnu. Parmi tous les chassidim, il est reconnu comme le brevet le plus authentique, qui n'a pas bougé, qui n'a pas... Rabbi Nathan a su retranscrire exactement les mots qui ont été dits. Et on va étudier plusieurs fois que Rabbi Nathan, des fois, il écrit même en yiddish comment Rabbeinu les a prononcés. Ça veut dire il garde même la prononciation, comment elle a été faite. Ça veut dire, pour lui, Rabbi Nathan, pour lui, quand il voit Rabbeinu, chaque virgule, chaque mot, chaque phrase, la tonation était très importante. Et il a fait de ça le Chaim Oran. C'est-à-dire, le Chaim Oran, c'est un otsar, c'est un trésor énorme qu'à travers ce livre-là, on peut découvrir mamash et re... Quoi ? Non, il écrit en hébreu. De base, il écrit en hébreu. Juste, les phrases qui ont été rapportées au nom de Rabbeinu, ils ont été écrites en yiddish pour garder la prononciation exacte comment Rabbeinu les a dit. Ça veut dire, mes amis, on a un trésor que Rabbi Nathan a fait, et ce trésor-là, on espère, Bezrat Hashem, le goûter, le savourer, apprendre à le goûter et à le savourer, Bezrat Hashem. Alors, on va commencer l'introduction du Chaim Oran. Comment Rabbi Nathan commence son introduction? Il commence par un pasouk des Tehilim. Dans le pasouk des Tehilim, il y a écrit Mi yemalel gevurot Hashem yashmiya kol tehilato. Mi yemalel gevurot Hashem. Qui peut louer notre Dieu? Qui peut louer notre Dieu? Il dit David Ameler. Le seul qui peut louer Hashem, c'est le seul qui peut le louer de manière qui va le louer de toutes les louanges possibles. Celui qui ne peut pas le louer de toutes ses propres louanges, il ne peut pas commencer à louer Hachem. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je répète.
Celui qui se limite.
Qui peut louer Hachem? Mi yemalel gevurot Hachem. Qui?
Hein?
Non, qui? Non, qui peut louer? Qui peut louer la grandeur de Dieu? Qui peut prendre le micro, parler en racontant la grandeur d'Hachem? Qui? Mi yemalel gevurot Hachem. Mi, c'est qui? Alors il dit David Ameler, Yashmiya kol tehilato. Le seul qui peut donner des louanges à Hachem, c'est celui qui sait le louer à travers toutes les louanges qui lui appartiennent. Ça veut dire, tu dois le louer comme ça, comme ça, comme ça. Comme il est Hachem, si tu sais faire le travail parfaitement, fais-le. Mais si tu fais le travail qu'à moitié, ne commence même pas. C'est ça que ça veut dire. Donc là, il dit, ça c'est le psaume 106, Kouvav, c'est la fin de Kouvav. D'accord? Et là, pourquoi il rapporte ça en premier pasouk, Rabbi Nathan? Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi? Qui peut louer les grandeurs du tzaddik? C'est qui? C'est que celui qui pourrait le louer vraiment comment il est. Pas faire un, c'est-à-dire de faire un travail parfait et pas à moitié. C'est ça en fait qu'il veut dire. Et là, il continue. Mi yucha les saper, qui peut raconter? Mi yucha les chers, qui peut mesurer? Et kol agdoulot, toutes les grandeurs, toutes les merveilles, toutes les prestiges qu'il a fait notre maître, Rabbi Nachman de Breslev. La lumière de toutes les lumières, la lumière parfaite, la lumière cachée, enfouie, que Dieu lui-même a cachée au début de la création du monde, avec toutes les âmes du Ham Israël. Vous imaginez là les mots qu'il y a écrits ici, là, les amis? Rabbeinu, il appelle son maître, c'est pas Stam des mots, hein, mes amis, c'est des mots. Rabbi Nathan, c'était pas du tout un inventeur de mots, ou alors un écrivain de chants, ou Rabbi Nathan, c'était pas du tout ce genre de poète. Rabbi Nathan, il était très très précis sur tous les mots et toutes les virgules. Il a pas cherché ce qu'il pensait vraiment, il a écrit. Rabbeinu Akadosh, mes amis, c'est le premier niveau, c'est quoi qu'il a écrit ici? Or à Orot. C'est quoi le Or à Orot? La lumière de toutes les lumières. C'est-à-dire quoi la lumière de toutes les lumières? On va étudier dans le Rahim Oran que Rabbi Nachman de Breslev, c'est un genre de lumière qui inclut en lui toutes les lumières possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des tzadikim qui sont de niveau comme les 12 tribus, comme les Nessim, les présidents des 12 tribus, les princes. Il y a des tzadikim qui sont équivaux aux âmes. Moi j'ai mon, d'après ma neshama, j'ai mon tzadik de ma neshama. Il me convient, il est bien, chacun il a son tzadik. Ça existe. Mais il y a des tzadikim que même ces gens-là, ces tzadikim-là, ils ont le devoir d'être des élèves à des tzadikim. Et il y a des tzadikim encore plus grands, ces tzadikim-là, ils sont très...
spéciaux.
Ils sont yéridim, ils sont
uniques.
Ces tzadikim-là, c'est des tzadikim, comme on dit le mot rabbi. Rabbi, c'est la rachetévo de Rosh Bene Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils incluent en eux toutes les âmes. Ça veut dire que personne ne peut dire, lui, c'est pas mon rab d'après Maneshama. Non. On parle d'une lumière qui inclut toutes les lumières. C'est-à-dire, il sait rassembler le peuple juif. Il sait voir la beauté du peuple juif. Il sait regarder toute la photo, pas en puzzle qui est découpé, mais en puzzle quand la photo elle est complètement parfaite. Or, à Tzartzachot, une lumière d'une grande pureté de lumière. Or, à Tzartzachot, une lumière qui est pure. La lumière qui a été cachée depuis la création du monde. Shebem Kluim Kol, que tous les mondes dépendent de cette lumière-là. Ubeyoter, et surtout, Asher Pa'al Ve'asa, Imanashav Amekoravim Alav, et surtout ce que le tzaddik, ce que Rabbi Nachman de Breslev a fait avec ses hommes et avec ses élèves. Ce qu'il a fait avec eux. Qu'ils ont eu le mérite d'être à côté de lui, proche de lui, proche de son ombre.
Qui peut raconter tout ça?
Qui, exactement? C'est la Kadosh, son ombre sainte. Rien que d'être proche de son ombre, ça valait la peine. Et d'entendre de sa bouche ce qu'ils ont entendu, des choses que même l'ancien des jours a cachées. C'est qui l'ancien des jours? C'est Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, il a caché des lumières, Akadosh Baruch Hu, il a caché des enseignements, il a caché une sorte de Torah, parce que cette lumière, c'était une lumière qui ne pouvait pas être diffusée de telle comme cela. Alors, il y a des tzadikim qu'eux, ils ont essayé de faire descendre ces lumières-là. Ils ont essayé.
On parle du Haraganouz ou aucun?
On parle du Haraganouz. Ils ont essayé de faire descendre cette lumière-là, mais à chaque fois qu'ils ont essayé de faire descendre ces lumières-là, où eux, ils sont morts, où il y a eu des choses très graves dans le monde, ou alors ça a créé des mauvaises choses dans le peuple juif. Pourquoi? Parce que cette lumière était trop puissante, trop forte, et elle ne pouvait pas être digérée dans ce monde-ci. Parce qu'il fallait qu'on cherche un tzaddik qui a la possibilité et aussi le mérite par Hachem, que Hachem le choisit. C'est aussi par le choix d'Akadosh Baruch Hu qui sait la palpiter, qui sait la mâcher, qui sait la travailler, qui sait la rendre...
À transmettre
que nous on puisse boire cette lumière et que ça nous fasse que du bien et que ça nous brûle pas et que ça nous rend pas plus fous, que ça juste ça nous apprend la Emouna, la Teshuvah. C'est de ça qu'on avait besoin. Et Rabbi Nathan, il dévoile et il dit, on a été zoré d'avoir un tzaddik dans le monde, que ce tzaddik là il a dévoilé ce qui a été caché et enfoui pendant des millénaires, ce que Dieu a fait lui-même. On a découvert un tzaddik qui a su nous dévoiler des enseignements, des conseils, qui nous a fait montrer combien Hachem, il est pitié et miséricordieux, qui nous a fait montrer combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien Dieu il a de l'influence bonne sur chacun de nous. Et ça, cette force, ce travail-là, ce tzaddik nous l'a fait avec des mots simples. Et c'est ça la grandeur, c'est ça qu'il dit sur Rabbeinu. Ubi pratut, et là Rabbi Nathan, il va parler
en particulier.
Et en particulier, Asher Pa'al Va'asa Imi. Moi, j'ai vu ce que Rabbi Nachman a fait avec moi, il dit Rabbi Nathan. Ani Va'evion, le pauvre et le clochard. Comme ça, il parle de lui-même, Rabbi Nathan. Asher Ikimani Me'afar, mon maître, m'a levé de la terre. Ou Me'ashpot, il m'a sorti des poubelles. Veoshivani etzlo, il m'a fait asseoir à côté de lui. Vekirvani, et il m'a rapproché, berachamav, avec de la pitié de la miséricorde, beoter. Vesamach yado alai, Et Rabbi Nathan, et Rabbeinu, il a pris ses mains et il les a mis sur moi. Les Kabel, Velichtov, et Kol Divrei Torato, Vesichotav, Vesipurei Maasiotav. Et il m'a ordonné et il m'a donné la force de pouvoir écrire ses conseils, ses conversations, ses enseignements et les contes. Ça veut dire, il dit Rabbi Nathan, je ne fais pas ce travail-là parce que je crois que c'est moi le meilleur. Pas du tout. Moi, je sais qui je suis. Je suis un pauvre et un clochard. Ma place, elle est où? Elle est dans les poubelles. Comme ça, il a écrit. Il a écrit. Rabbi Nathan, il dit. Et encore une fois, mes amis, Rabbi Nathan, il ne joue pas des jeux. Celui qui connaît un petit peu la façon de comment il écrit, c'est, Rabbi Nathan, c'est vraiment le genre de personne qui, quand il peut écrire moins, il écrit le plus moins possible. C'est-à-dire, ce n'est pas un jeu qu'il fait. Rabbi Nathan, il dit, moi, vous voulez savoir la vérité, je vais vous dire qui je suis. Moi, je suis un pauvre et un clochard. Voilà. Moi, je suis un clochard. C'est ça, moi. Moi, ma place, elle est dans la poubelle. Dans la poubelle. Et il y a eu un maître. Je ne sais pas pourquoi, ce maître-là, il est descendu. Il est descendu là où j'étais. Il m'a attrapé avec son amour, avec sa miséricorde. Il m'a fait sortir de là où il était, de la poubelle, de là où il était. Il m'a fait assis roux. Il ne m'a pas dit, je vais te mettre dans une maison. Ou alors, non. Il m'a emmené chez lui à la maison. Il m'a fait asseoir à côté de lui, pas en face, pas à côté. T'es mon ami, je m'occupe de toi. Eh ben nous on doit. Nous on doit le comprendre de la façon de comment Rabbi Nathan se voyait lui-même. Comment lui il se voyait. Non, par rapport à lui-même. Par rapport à lui-même. Même par rapport à nous. Rabbi Nathan, s'il rentrait ici, par exemple, maintenant, actuellement, il se voyait plus bas que toi. Il, dans sa tête, il comprenait même. Il savait que lui, il est encore plus bas que toi.
Alors que c'est un garonne,
il se voyait vraiment, vraiment, vraiment. Et pour lui, c'est le Emet, c'est comme ça. Il sait pourquoi. Mais nous, on ne peut pas comprendre ce genre de choses-là. En vérité, la Torah nous enseigne, plus tu connais la grandeur d'Hachem, plus tu apprends combien tu es petit. Donc en fait, plus un homme il a une perception de combien Dieu est grand, plus tu as une perception de combien tu es petit. Et c'est ça en fait ce qu'on voit ici. Comme Moshé. Moshé, il a perçu Hachem, il se voyait le plus humble possible. En fait, c'est une perception de Dieu, en fait.
On parle de Rabbi Nathan qui était censé être rave de plusieurs contrées, plusieurs machins, c'est pas...
Bien sûr.
C'était un grand...
Bien sûr, mais avec tout cela, Rabbi Nathan, il disait, c'est des bêtises, tout ça. C'est quoi? C'est des bêtises, c'est des ch'touillotes, le Emet, la mito, la Vodat Hachem, mon cœur. C'est ça, moi, je veux purifier. C'est le cœur, c'est le cerveau, c'est...
Quelle force de nature.
Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. Vous savez pourquoi il écrit ça? C'est quoi la raison pour laquelle il écrit? Il dit, Rabbi Nathan, si un jour vous allez monter dans le ciel et vous allez voir que Béhémet, je suis comme ça, ne venez pas me dire « Ah, t'as joué un jeu. » Moi, je vous dis dès maintenant. Moi, qui je suis, voilà, c'est ça qui je suis. C'est-à-dire, moi, je sais qui je suis. Je sens ce que je suis. Et sachez que je ne suis pas apte à écrire ce livre. Je ne peux pas écrire ce livre-là. Mais c'est mon maître qui me l'a ordonné. J'écris ce livre pas parce que je suis à ce niveau. J'écris ce livre pas parce que je témoigne, parce que je ne peux ni témoigner, ni rien faire. J'écris ce livre juste parce que c'est mon maître qui me l'a ordonné. Vous voyez là, l'humilité un petit peu qu'on regarde ici. C'est inimaginable, mes amis. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose. Ouais, mais Vadaï, c'est Nahol. Exactement. Oui. C'est grâce à cette annulation qu'il a eu le mérite, réellement, de nous donner la lumière parfaite et de ne pas faire rentrer rien de personnel dans ce qu'il dévoile. Vous savez, mes amis, il y a un livre qui s'appelle Le Parparot Lechorma. Le Parparot Lechorma, c'est le premier livre explicateur du Likutei Moharan qui a été écrit en chronologie. Dans la Torah Vav, c'est la première Torah que Rabbeinu a dévoilée quand il a vu Rabbi Nathan. Là-bas, le Parparot Lechorma, il raconte un petit peu ce qui n'est pas écrit dans le Chayei Moharan, un petit peu de la conversation, la première conversation avec que Rabbi Nathan il a eu avec Rabbi Nachman de Breslev. Et quand Rabbi Nathan est venu pour la première fois voir Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman de Breslev a parlé pour la première fois de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua Bin Nun. Tout de suite. Dès qu'il a vu Rabbi Nathan, il a parlé de Moshe et Yehoshua. Et il lui a dit, moi je suis Moshe et toi tu es Yehoshua. Il lui a fait faire comprendre que on va être, tu vas pas être tu vas être l'élève. Alors, il faut que tu saches. C'est quoi ce que j'ai à te dire? C'est maintenant, il lui a dévoilé là-bas, il lui a dévoilé Rabbeinu que Yehoshua, c'est les rachet evot de Akitsu Yekumun, Akitsu Veranenu Shochne Afar. Ça veut dire quoi Yehoshua? Yehoshua, c'est les rachet evot. Que tout le travail de Yehoshua, Shalom Aleichem, tout le travail de Yehoshua, c'était de ramener et de maintenir et de renforcer les habitants de la terre. C'est qui les habitants de la terre? Pas les habitants sur terre, les habitants dans la terre. C'est-à-dire les personnes qui sont très loin de la Torah, les personnes qui sont très loin d'Hachem, dans la Emouna, des personnes qui sont désespérées, des personnes égarées. Égarées, pas que en mode religieux, pas religieux. Je te parle même à un monsieur qui applique toute la Torah et les mitzvot, mais qui a, son cœur n'est pas avec Hachem, il n'a pas de vitalité, etc. Un truc comme ça. Et tout le travail de Yehoshua, c'est de renforcer. Il lui a dit ça, Rabbi Nathan. Il lui a dit, sache, si tu vas me comprendre, tu vas découvrir que dans mes paroles, le fil conducteur qu'il y a, qui commence et qui termine toutes mes phrases, c'est une seule chose. Se renforcer. Itraskout. Se renforcer tout le temps. Jamais perdre l'espoir. Tout le temps avancer, tout le temps regarder en avant. Et si tu vas comprendre, il dit à Rabbi Nathan, si tu vas comprendre cela, tu vas me comprendre. Et Rabbi Nathan, il a fait un travail surplus que jamais on pourrait s'imaginer, le travail énorme qu'il a fait, donc d'écrire toute la Torah et de rajouter encore plus de cela. La kol kaasher la kol zikani, et tout cela, c'est mon maître qui me l'a zikani, c'est-à-dire qui me l'a fait mériter. C'est-à-dire, c'est même pas de mon mérite à moi. Nirtav aliadi, et ça a été écrit que à travers moi. Rabbi Nathan, il a raconté, c'est écrit dans le Chayam Oran, on va le lire plus tard. Un jour, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il était assis avec ses élèves, et Rabbi Nathan, il n'était pas dans la maison. Et Rabbeinu, il a dit, je remercie Hachem qui m'a emmené ce jeune-là, Rabbi Nathan, que maintenant qu'il sera là, aucune phrase va être en l'air. Tout va être écrit, tout va être transcrit de la meilleure manière possible. C'est-à-dire, il a remercié Rabbeinu devant des gens, pour témoigner, pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, c'est le seul qui pourra écrire ma Torah. C'est-à-dire, c'est énorme. Donc, c'est ça la raison. Ve'amar bepemale, et un jour, Rabbeinu a dit de manière formelle, chez Enmi Sheyodea Mimenu, qu'il n'y a personne qui sait de moi, qui imanochimeat, que moi-même, Rabbi Nathan. Le hot kamal et shanot kaele, et comme ça, plusieurs langages. Donc là, Rabbi Nathan, il ne vient pas s'éventer. Il ne faut pas tomber dans le piège. Rabbi Nathan, il vient déclarer une déclaration. C'est quoi? C'est une déclaration de respect. Envers qui? Envers le lecteur. Quoi? Ne sous-estime pas que je suis la personne de taille et de grade qui peut écrire ce livre, pas du tout. Je n'ai ni la taille, ni les grades, et ni la possibilité d'écrire un livre qui va décrire la vie de Rabbeinu HaKadosh. Par contre, Rabbi Nachman de Breslev m'a ordonné à moi seul d'être son scribe, et plus de cela, le seul qui l'a compris parmi tous les élèves, ça a été moi. Donc, il dit Rabbi Nathan, je sens le devoir obligatoire de transmettre ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti devant mon maître Rabbi Nachman de Breslev. Et ce cadeau-là, il nous le donne à tout le Ham Israël. Ça veut dire, grâce à le Chayim Oran, c'est comme si on a une possibilité d'être proche de Rabbeinu. C'est-à-dire, vraiment, on est là, on s'invente comment ça s'est passé, il va raconter des choses inimaginables. Ou Behemet, et en vérité, regardez comment Rabbeinu, Rabbi Nathan, comment il est puissant. Et en vérité, mon âme sait très bien qu'il est impossible de relater quoi que ce soit. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien raconter. Et j'ai combien même écrit beaucoup, parce que ce livre, comme je vous ai dit, c'est un livre qui a été écrit à la fin de sa vie. Donc il a déjà écrit le Sichot Aran, il a déjà écrit le Likut Emoran, il a déjà écrit plein. Et il dit, et avec tout cela, je ne peux encore rien raconter. À la fin. Non, mais le Chaim Moran n'était pas encore écrit quand il a écrit tout.
L'Agdama.
Ouais. Je sais pas. Normalement, on écrit l'Agdama à la fin. Normalement. On n'écrit pas l'Agdama au début. L'Agdama, c'est la dernière chose qu'on écrit.
L'Agdama, c'est pas l'introduction.
L'introduction. L'introduction, c'est toujours la fin. C'est après que le livre, il est fait, et tu expliques de quoi il est fait le livre. L'introduction, on l'écrit à la fin. Mais si parti, regardez ce qu'il dit ici. Mais si parti les chaverai ve talmidai. J'ai raconté à mes amis et à mes élèves. C'est la première fois que Rabbi Nathan il dit mes élèves. Parce qu'on n'est pas, on est tous les élèves de Rabbi Nou. Mais quelque part, même ce titre, c'est Rabbi Nou qui me le donne, puisque c'est moi qui dois écrire. Donc, quelque part, vous êtes mes amis. D'ailleurs, en vérité, vous êtes tous mes élèves. Nous, on n'est pas attachés à Rabbi Nou, mes amis. On est attachés à Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nou, il n'a rien écrit. Il a juste dit. C'est-à-dire, nous, on s'appuie sur les écrits de Rabbi Nathan. Donc, c'est qui notre maître? On s'appuie sur Rabbi Nathan. On s'appuie sur Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nou? Donc, c'est qui notre vrai maître? C'est Rabbi Nathan. C'est lui qui nous donne sa Torah. C'est lui qui nous la transmet. C'est nous qui l'a écrit. Donc, c'est sur qui que je m'appuie? Sur Rabbi Nathan. Donc, il dit, Rabbi Nathan, en vérité, vous êtes tous mes élèves. Mais moi, je vais vous considérer comme mes amis. Les chaverai, vous êtes d'abord mes amis. Mais vous, vous devez le savoir. Que vous, dans un titre normal, vous êtes mes élèves. Mais moi, je vais vous considérer tous comme mes amis.
C'est-à-dire que lui nous considère comme des amis, mais nous, on doit le considérer comme notre maître.
Bien sûr. Mais Père Bémod, ou Baruch Hashem, merci mon Dieu, Dvaray Asu Roshem. Mes paroles que j'ai écrites et que j'ai dit ont déjà fait un empreinte dans le monde. Le livre a été diffusé. Bekoro Agadol, par sa très grande puissance.
Mais ça veut dire quoi Mon maître, c'est Rabbi Nathan.
Ton maître?
Parce que Rabbi Nathan, il a dit, ne venez pas chez moi, à ce que je vais faire. Allez chez Rabbi Nathan, moi, ça veut dire quoi
Ton tzaddik, je vais t'expliquer quelque chose. Tout ce que tu connais de Rabbi Nou, ça vient de chez Rabbi Nathan. Donc, c'est qui ton maître? Réfléchis. C'est qui t'a enseigné toute la Torah de Rabbi Nou? C'est qui? C'est qui? C'est qui t'a enseigné la Torah de Rabbi Nou? C'est qui?
C'est Rabbi Nathan.
Donc c'est qui ton maître? C'est Rabbi Nathan. Tu ne peux pas être zoré de dire que ton maître c'est Rabbi Nachman. Qui on est? Qui on est? Alors bien sûr, parce que Rabbi Nathan, il nous a enseigné. Il a dit, ne venez pas. Parce que moi, ce n'est pas moi le centre, il dit Rabbi Nathan. Le centre c'est Rabbi Nou à Kadosh. Moi je ne suis rien moi. Il dit Rabbi Nathan, moi je ne suis rien du tout. Mais dans la réalité, c'est qui t'a enseigné la Torah? C'est qui? Dans la réalité, Alpi Alaha. Alpi Alaha. Alpi Alaha. C'est qui t'a enseigné la Torah et qui s'appelle ton Rav, ton maître? C'est Rabbi Nathan.
Un peu toi aussi.
Donc, tu comprends ce qu'on dit? Donc c'est Rabbi Nathan ton vrai maître. Maintenant, Rabbi Nathan, il t'enseigne que lui, c'est pas le maître, c'est Rabbi Nou le maître. Tu comprends? Donc ton tzadik à toi, vadaï, c'est Rabbi Nou, vadaï. Mais en vérité, il s'est caché, Rabbi Nathan, il s'est caché. En disant aucun mot, mais en vérité, c'est lui notre maître. Vous savez, mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Rabbi Nou et Rabbi Nathan, il a dévoilé Rabbi Nachman que ça ressemble au soleil et à la lune. Comme ça, dans la Torah, le soleil et la lune. Dans la Torah Aleph, depuis le début de la Torah du Likut Moran, il parle du soleil et de la lune. Maintenant, le soleil et la lune, on peut le voir le jour et la nuit. Le soleil, on voit le jour, la nuit, on voit la lune. Des fois on voit la lune, des fois on ne voit pas la lune. C'est quand qu'on ne voit pas la lune? C'est quand elle est le plus proche du soleil. Quand elle est le plus proche du soleil, on ne voit pas la lune. Comme Rabbi Nathan, ça a été le seul au monde qui a été l'élève, qui a été le plus proche de Rabbi Nou, c'est pour cela qu'on ne le voit pas, Rabbi Nathan. Alors on croit toujours que c'est l'élève. Mais tu n'as pas compris. C'est le patron de tous les patrons, Rabbi Nathan, c'est celui qui a su nous le contracter, nous l'arranger, nous le mâcher, nous le faire diluer pour qu'on le goûte. Un jour, Rabbi Nou, il a dit sur Rabbi Nathan, s'il n'y aurait pas Rabbi Nathan, rien y restait de moi. Alors qu'est-ce que tu comprends de là? C'est Rabbi Nathan qui a été le keli, qui a été l'ustensile, le récipient pour maintenir la force de Donc c'est énorme. Et ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Pour nous, c'est un peu... C'est... Rabbi Nathan, c'est spécial.
C'est magnifique, on n'en parle pas.
C'est la preuve. C'est la preuve que combien il est grand. T'as vu comment c'est grand?
C'est que ça. C'est que ça. C'est vrai.
Shenichnas bilibam haemet kesh boeret.
Juste, tout le monde est d'accord avec Rabbi Nathan, d'accord? Ouais. Tous les mouvements de tout ce que tu veux, ouais. C'est Rabbi Nathan.
Ouais. Et toutes les paroles et les phrases que j'ai écrites, que j'ai racontées et que j'ai diffusées à mes amis et à mes copains et à mes élèves, les phrases et les paroles sont rentrées comme des boules de feu dans leur cœur. Venitoreru arbe l'Hashem itbarach, et grâce à cela, ils se sont réveillés pour se rapprocher d'Hachem. Donc il dit Rabbi Nathan, tout ce que je vais écrire dans le Chayam Oran, je l'ai déjà dit oralement. Ah. Et toutes les phrases que j'ai dit oralement, j'ai vu l'impact qui se passe quand je les ai dit à mes amis et à mes élèves. Et j'ai vu l'importance de garder ces mots écrits dans un livre, pas oralement, juste les raconter. Donc j'ai vu de mes yeux l'impact. Et cet impact, il faut qu'il reste dans le monde. Il dit Rabbeinu, et j'ai même vu déjà des gens qui sont déjà partis de ce monde, des élèves de Rabbeinu qui sont partis de ce monde, et qui sont partis de ce monde comme des tzadikim. Grâce à ces phrases, grâce à ces mots, grâce à ces enseignements-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a pris quelqu'un normal, qu'il avait un travail, il avait un business, il avait une macolette, il avait une pizzeria, je sais pas quoi, d'accord? Il avait une vie, toute une vie normale. Un monsieur, un juif simple, qui avait une vie normale. Et Rabbeinu, et Rabbi Nathan, il est venu, il les a parlé. Il leur a parlé d'Hachem, il leur a parlé de l'Aïmouna, il leur a parlé de Rabbeinu, il leur a parlé. Et ces personnes-là, ils se sont transformés. Oui, ils étaient dans la Torah, mais ils se sont transformés. D'un coup, ils ont eu Dieu qui a grandi dans leur cœur. D'un coup, ils ont eu une envie, une simra, une joie, une attirance vers la Torah, une attirance vers la Teshuvah, une attirance vers la Emouna, une attirance vers apprendre. Ils se sont transformés. Et il dit Rabbi Nathan, ils se sont transformés, ils se sont rapprochés, ils sont devenus des tzadikim et ils sont morts des tzadikim. Donc une machine qui prend la personne et qui te forme et qui te rend meilleur que tu peux être. Et il dit à Benatan, des choses comme ça, je ne peux pas mourir moi avec. Donc j'ai vu l'impact qui se fait sur des gens. Ça veut dire c'est le Bahaim, il y en a des gens vivants, il y en a des gens qui sont partis. Vanisharim, Lorechemim, Beshanim, Ineh Hazakim, Bezrat Hashem Idbar. Et les gens qui sont vivants, qui connaissent ces mots, ces phrases et ces paroles, ils sont très forts dans ce monde-ci. Ils arrivent à être joyeux, ils arrivent à garder la foi, ils arrivent à garder la vérité et de ne pas mentir. Et ils sont forts et chez eux tout est clair comme un miroir poli. Que jamais ils tomberont, jamais. Balimot leolam.
Là il parle d'Afka du Chayim Oran ou des paroles de Rabbeinu?
Des paroles du Chayim Oran. Ça veut dire, il dit Rabbeinu, c'est un livre qui va faire en sorte de te maintenir dans ta vie. Dans ta vie, que tu vas rester fort dans Hachem,
d'allumer la flamme,
que la vérité sera là et tu vas te battre pour elle et tu vas rester avec la vitalité. Ve'im kol ze yadati benafshi, mais avec tout cela, je sais très bien profondément ki gam em adain tzrichin lemodai, même eux ils ont besoin de ces paroles là. Va'adain enam yodim, et même ces gens là ne connaissent pas encore la lumière de la vérité authentique, de toutes les authenticités, parfaitement, comme il le faut, comme je le sais moi, et comme ces paroles, ils sont dans mon cœur. Ou comme c'est écrit chez les Chachamen ou Zichronam Livracha, dans la Gemara Maseret Sanhedrin, où là-bas il y a écrit Arbe la matimi rabotai, velo chisarti mem, ki im kakelev amelakek maayam, vetal midai lo chasrum imenu. Un jour, il y a un élève qui a dit: moi, j'ai bu la Torah de mon maître comme un chien boit de l'eau. Quand un chien boit de l'eau, ou alors qu'il mange, alors il lèche tout jusqu'à qu'il reste rien. Rien. Il va lécher jusqu'à qu'il reste rien. Il dit, moi, c'est ce que j'ai fait avec Rabbeinu. J'ai léché jusqu'à qu'il ne restait rien. J'ai tout pris. Ma d'aber. Maintenant, est-ce que moi je peux dire ces phrases-là comme ils sont écrits dans la Gemara? Et C'est très connu que Rabbi Nachman, quand il parlait, chacun y ressentait quelque chose personnel, d'autre, de spécifique. Pas tout le monde ressentait la même chose. Donc si moi je vais dire ce que je ressentais, alors quelqu'un d'autre ressentait autre chose. Alors comment pourrait-on faire ce travail-là?
Ah, que Rabbeinu, quand il disait quelque chose...
Oui, « Ve'enen gurota, ve'enen nora otav » et ça, c'est le travail que notre tzaddik l'a fait. « Asher yagav et tarach bavodato idbarach » qu'il s'est travaillé et qu'il s'est fondu dans la vodat Hashem, « Ashezacha, le mashezacha » jusqu'à qu'il a atteint ce qu'il a pu atteindre. Et il est monté là où il est monté. Et là où il est monté, il a attiré des nouvelles intelligences, des connaissances et des consciences très profondes, comme c'est écrit « Maim amukim et tzabelef ish » de l'eau profonde, qui ressemble à un conseil parfait qui sort d'un cœur. Amok, amok, mim, tsaïn, pour comprendre notre maître Rabbi Nachman de Breslev, il faut plonger très profond pour prendre de là-bas de l'eau. Adachar bechokhmato, jusqu'à que, grâce à cette sagesse qui est énorme, et avec cette force qui est puissance, il a eu le mérite et la lumière de pouvoir nous donner à nous des gens petits, des gens minus, des gens qui sont salis, un tout petit peu de divinité, d'étincelle, de la perception de ce que c'est la divinité. Ce que moi, je peux raconter et que les autres ne pourront pas jamais comprendre. Et voici ce que je peux vous proposer, ce qui n'a jamais été auparavant. Que dans la Torah numéro 30, Rabbi Nachman de Breslev a enseigné que plus la génération elle est basse, plus on a besoin d'un grand docteur. Plus un homme il est malade, plus son docteur il doit être encore plus grand. Donc, plus les générations ils avancent dans le monde, plus on a besoin d'un tzaddik encore plus grand qui sait faire encore plus de choses. Donc il dit Rabbi Nathan, imaginez-vous en fonction des générations combien Rabbi Nachman il est grand et sa puissance est grande. On a besoin d'un tzaddik qui soit pas juste grand, il dit ici, mais qui soit aussi un artisan. On a besoin d'un artisan. Pourquoi un artisan? Un artisan merveilleux. Parce qu'il doit prendre une matière comme nous, qui n'a aucun dessin, qui n'a aucune forme, qui n'a aucune qualité. Et il doit, lui, avec son artisanal, nous trouver un sens à toute notre vie. Vérofeneman. Et on a besoin aussi d'un docteur loyal. Un docteur loyal qui nous donne des guérisons à nos âmes, à notre âme. Qui pourra faire rentrer en nous des perceptions divines dans notre cœur qui est tout petit, dans des gens qui sont malades comme nous et qui sont éloignés comme nous. Et voici, je n'ai pas la plume qu'il faut et je n'ai pas la bouche assez élevée, assez grande pour raconter une partie parmi un million de ce que j'ai dans mon cœur. Mais combien même, et je suis obligé de sortir un tout petit peu et de raconter ce qui s'est passé depuis le premier jour que j'ai eu le mérite de me rapprocher quand il m'a renforcé et qu'il m'a attaché vers Akadosh Baruch Hu. Et cela, je me sens le devoir d'écrire ces choses merveilleuses et ces dévoilements de Torah qu'il a dévoilés dans le monde. Et j'espère qu'Hachem va m'aider et me donner de la force et de me renforcer tout le temps pour avoir le mérite et la plume pour écrire ces choses et tout ce qui s'est passé à travers chaque Torah, à travers chaque parole et à travers chaque conte et conversation qu'il a dit avant, pendant et après. Au tout début, il dit Rabbi Nathan, quand je me suis rapproché de Rabbi Nachman de Breslev, j'étais pas encore assez meyuman, j'étais pas encore assez professionnel pour commencer à écrire. Toutes les conversations, toutes les phrases, tous les mots. Juste des fois, quand Rabbi Nachman dévoilait une Torah, alors là, j'avais la possibilité de pouvoir écrire. Mais beaucoup de choses, je n'ai pas écrit. Mais depuis le jour où j'ai commencé un tout petit peu à connaître la grandeur, la perfection, la sainteté énorme que mon maître avait. Je me suis dit que normalement, il faudrait que quelqu'un se mette à côté de lui et qu'il écrit chaque phrase et chaque mot qui sort de sa bouche avec sainteté et pureté. Car quand il sortait des paroles de sa bouche, il y avait toutes sortes de grâces, de vérités, de craintes énormes qui brûlaient comme du feu qui brûle. Car chaque parole qu'il a dit, même des paroles de ce monde-ci, même des choses simples, même en parlant de la politique ou en parlant de choses qui sont complètement banales, tout ce qu'il disait avait le droit d'être écrit sur un livre. Car chaque parole et chaque mot qu'il a dit, même des phrases banales, tous, quand il les disait, ils brûlaient comme du feu en sortant de sa bouche. Mais j'ai vu que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être à côté, d'écrire et de retranscrire la façon de comment il dit les choses. Et il dit, c'est à cause de cela que je me suis rabaissé, je me suis éloigné un petit peu, et je ne me suis pas dit que je peux écrire. Et je n'ai pas écrit même des choses importantes, même des sagesses, même des paroles qui ont été dévoilées. J'ai juste écrit les enseignements que lui, il m'a demandé d'écrire. Jusqu'après plusieurs années que je me suis rapproché de Rabbi Nachman. Et là, mon cœur a commencé à brûler et à s'envahir et à voir de la ferveur. Et j'ai commencé à écrire un petit peu toutes les phrases qu'il a commencé à sortir, tous les mots, toutes les choses qu'il a dit de sa bouche. Un petit peu.
Dans les 8 ans qu'il a
écrit. Dans les 8 ans. Ouais, même dans les 8 ans.
C'est à quel passage il a commencé à écrire,
je sais pas. C'est après que Rabbi Nathan, après que Rabbeinu, il est parti dans son long voyage de 7 mois, 8 mois.
À Nimrod.
Ça c'était au début de
Saïd Karvout, ouais.
C'est-à-dire dans les 8 ans, il a quand même pas mal écrit.
Ça veut dire la majorité de ce qu'il a écrit Rabbeinu, c'était les 3 dernières années.
Ah.
C'est quand il était Rabbeinu malade. Et que Rabbeinu, il n'était pas en voyage, donc Rabbi Nathan pouvait être plus proche de Rabbeinu. Donc c'est ces moments-là qu'en vérité, il a écrit. C'est ça qu'il dit ici. Il dit en fait, moi je vous ai dévoilé des choses que je ne vous ai pas dévoilées auparavant. Donc ça veut dire il y a 6 ans que je n'ai rien dit. J'ai rien écrit sur les 6 ans auparavant. Tout ce que je vous ai dit, c'est juste les dernières phrases qui ont été dites.
Et Rabbeinu, sur ce qu'il a fait pendant 8 ans.
Rabbeinu, il n'était pas en Eretz Israël pendant 8 ans.
Avant qu'il voit.
Rabbeinu, il est parti en Eretz Israël. Quand Rabbeinu, il est parti en Eretz Israël, Rabbi Nathan n'était pas encore proche de Rabbeinu. C'est que quand il est revenu de Eretz Israël, que là, Rabbi Nathan, il s'est rapproché tout de suite de Rabbeinu. Comment il vivait financièrement? Alors au début, quand il n'était pas connu, il a souffert de la pauvreté très forte. Mais après, quand il a été connu et reconnu, il a hérité du Baal Shem Tov. Sa mère lui a hérité des magasins qu'elle avait. Et Rabbeinu, il vivait de la sriout, c'est-à-dire du loyer et de la parente. Il était aussi choutaf. Rabbeinu, il avait aussi des petites parts sur ce qu'ils avaient, et de ça, ils vivaient Rabbeinu. Alors, c'était vers la fin. Vers la fin, Rabbeinu, il avait de quoi vivre comme il faut, mais c'était juste au début, quand il était tout jeune, les 10, 20 premières années, ils ont été très, très durs quand il n'était pas connu. Il souffrait mamash, de la pauvreté, mamash. Gamracham Tikama Sipurim, j'ai aussi inscrit plusieurs histoires et plusieurs choses qui sont passées sur lui et sur ses hommes. Pas que sur lui, parce que c'est très important de savoir ce qui s'est passé sur ses élèves à Rabbi Nachman, car ses élèves c'est aussi lui-même. Ce qui se passe à ses élèves, ça se passe à lui. Mes amis, la beauté que Rabbi Nachman nous représente, c'est qu'on est lié à lui, on devient une partie de lui, on est attaché à lui. C'est pas un mot qu'on dit, on s'attache, c'est un attachement, c'est tout le concept. Quand je m'attache au tzaddik, automatiquement je vais avoir un lien avec lui. Il va se passer des choses qui ne vont pas se passer. Stam. Ou Meat, Misipure, Yegeato, Vetichato. J'ai aussi mentionné des petites histoires de la façon de comment Rabbeinu, il s'est fatigué dans la voie d'Atachem. Parce que c'est très important de raconter aussi, mes amis, comment Rabbeinu, il s'est fatigué dans la voie d'Atachem. On croit que Rabbeinu, il est né Rabbeinu. Rabbeinu, il est né un être humain comme nous. Il avait les mêmes ta'avot que nous. Rabbeinu, il a raconté, on va le lire ici, comment c'était un enfant. Il s'amusait, il rigolait, et il était passionné, Rabbi Nachman. C'était un homme, C'était un homme qui était passionné de la vie, des goûts. Il allait, il était passionné. Et Rabbi Nachman, il s'est travaillé, fatigué, il a sué, il s'est brisé en des millions de morceaux. Il a tout essayé, il a tout fait. Donc il dit, Rabbi Nathan, je suis obligé de vous raconter aussi la façon de comment il s'est fatigué dans la voie d'Hachem. Pas pour qu'on le regarde. C'est pour que nous aussi, on apprend de combien nous, on doit se fatiguer. La chère Alédé Zazara, parce qu'il faut savoir que Rabbi Nachman de Breslev, tout ce qu'il a atteint, il a atteint par le travail. Rien n'a été donné gratuitement, mes amis. Rien n'a été donné gratuitement. Celui qui croit que Rabbi Nachman, il est né Rabbi Nachman et qu'il est devenu ce qu'il est devenu tout seul, c'est complètement faux. Tout ce qu'il a fait, il a fait avec le travail. Et il dit, Rabbi Nathan, je veux que vous le compreniez bien, que nous tous aussi, c'est une question de travail. Et si on travaille, si on se fatigue, si on fait un excès, c'est comme ça qu'on atteignera des niveaux et des perceptions inimaginables. Mais ce n'est pas des cadeaux, il n'est pas né comme ça.
C'est un truc que je ne comprends pas, Nathan. Parce que ça, Rabbanu, il le dit plusieurs fois, que ça vient que de son mérite à lui, on va dire, de son travail. Et pourtant, quand on connaît l'histoire de Odel, la fille du Baal Shem Tov, ouais, quand elle lui dit à Rabbi Nachman, tu peux jeter tes livres, c'est bon, j'ai vu qu'il y a une Neshama qui va sortir de moi, qui va être. Ouais. Donc il est quand même, d'un côté, prédestiné à être Rabbeinu, et d'un autre côté, on voit que lui-même, il dit de lui que c'est que par son travail qu'il est devenu Rabbeinu.
Quand dans le ciel, tu es prédestiné d'être une très grande âme dans le ciel, quand on voit qu'il y a une très grande âme qui va descendre du ciel, alors cette âme-là, c'est comme un soleil. Elle est visionnée de tout ce qu'il y a dans le ciel en haut. Et elle est surtout visionnée de qui ? Du Yetzirah. Et quand elle voit le Yetzirah, qu'une très grande lumière comme ça va descendre, il va se mettre en long et en large pour essayer de le faire tomber et trébucher. Ça voudrait dire que c'est vrai que dans le ciel, il avait une très grande Neshama, mais il a été... Il a été éprouvé de manière inimaginable, et c'est ça qui a rendu toute la rentabilité. C'est-à-dire les épreuves que lui il a eues dans sa vie, dans ta vie, toi, 1000 ans si tu vis, jamais on va t'éprouver de même. Et lui on l'a éprouvé parce qu'il avait une grande âme, et parce que le Etzara voulait le tuer, il voulait pas le laisser.
Donc c'est le fait d'avoir réussi toutes ces épreuves qui étaient...
Lui, il a voulu l'abattre pour le tuer, mais ce qui n'est pas le Yetzer Hara, c'est comme Rabbi Nachman a tenu tête et a voulu continuer et a avancé. Donc c'est ça en fait qui l'a rendu encore plus fort et encore plus fort. Mais c'était un travail, ça a été très dur. Il dit Rabbi Nachman, il a dit des mots et des phrases qu'on va lire, qu'il faudra qu'on l'accepte, où il dit l'amertume que j'ai goûtée, l'amertume de ce monde, cette amertume. Nous, on cherche les kiffs, nous, on kiffe chaque instant, nous, notre vie, c'est que des kiffs. Et de temps en temps, on a des problèmes. Eux, c'était très dur leur vie, c'était très dur ce qu'ils ont passé. Et il n'a pas cherché les vacances et le noir, comment on dit le noir ?
La détente,
c'était pas du tout ça. Il a brisé son corps, il a brisé son âme, il a brisé la nuit, il a brisé son sommeil, il a brisé ses tavotes, il a tout brisé, il a annulé totalement tout. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas les élèves qui disent sans le savoir, c'est des choses qui sont écrites, que Rabbi Nathan il a entendu de la bouche de Rabbi Nachman, et que Rabbi Nachman il a raconté, pas du tout pour se vanter, mais pour nous enseigner, nous faire montrer que ça existe aujourd'hui, actuellement, qu'on peut... tuer le Yetzirah, on peut annuler des tavot, on peut enlever totalement la tristesse, l'enlever jusqu'à qu'elle n'existe plus, on peut enlever la colère totalement jusqu'à qu'elle n'existe plus. C'est possible, il y a des chemins. Et là, on va parler de ça. Alédé Zaha, Lema Shazaha, Veseder Nessiato l'Eret Israël, il dit Rabbi Nathan ici, j'ai raconté, rapporté aussi le voyage en Eret Israël, comment il s'est passé. Plusieurs histoires, plusieurs contes qu'il y a eu à travers chaque Torah, chaque enseignement du Likutei Moharan, et aussi ce qui s'est passé autour de chaque histoire des contes, et comment ils se sont déroulés jusqu'à qu'il a ouvert sa bouche et qu'il nous a dévoilé ce qu'il nous a dévoilé. Et si combien même à travers tout cela, je ne pourrais jamais expliquer, dessiner à travers l'écriture comment ça s'est passé exactement et comment ça s'est passé au moment prévu, mais combien même je ne peux pas ne pas écrire quelque chose, je ne peux pas ne pas raconter un tout petit peu une empreinte de ce qui s'est passé. Et maintenant, le travail, c'est à le lecteur. Quand il va lire, il doit s'imaginer, il doit faire travailler sa conscience, son imagination, comment ça s'est passé. Comment lire l'histoire? Qu'est-ce qu'elle veut me dire, l'histoire? Est-ce qu'il se vante? Est-ce que c'est juste un mot aléatoire? Et qu'est-ce qu'il voulait dire à travers cela? Et c'est ça, nous, qu'on va étudier, Bezrat Hashem. On va essayer de s'asseoir et de comprendre les mots et les phrases que Rabbeinu il a dit. Et moi, je demande au lecteur de réfléchir et de mettre du temps et une expression à travers chaque phrase et chaque mot qui a été écrit. Chaque chose. Peut-être, à la fin des générations, il y aurait des personnes qui pourront un petit peu goûter de ces grandeurs et de ces merveilles que notre Dieu, béni soit-il, avec sa bonté, nous a envoyé des tzadikim comme cela, qui font des nouvelles choses qu'il n'y a jamais eu auparavant. Et ces nouvelles choses-là, il faut les raconter dans le monde que ça existe et que c'est possible, pour que ça donne de l'espoir aux personnes qui sont lointains de se réveiller et de se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Car l'essentiel de tout le dévoilement que Rabbeinu il a dévoilé dans le monde, c'est pour ramener le monde à notre Créateur, à Hashem Yitbarach. Et il nous a préparé, conquéri un chemin devant nous, un chemin bon, un chemin qui est facile pour arriver vers Hashem. Et maintenant, tout celui qui voudrait se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il a un chemin facile pour arriver. D'après tous les enseignements qu'il nous a enseignés dans ses saints livres, heureux l'homme qui les saisira, qui les étudia et les réétudia, à fort baem, va à fort baem, qui va les tourner et le retourner infiniment. Et toute ta vie, tu buveras et tu mangeras et tu dégoûtes et tu goûteras de l'agréabilité dans ce que tu manges, tu mâcheras. Et tu ne bougeras pas de cette agréabilité. Car quand tu goûteras cette bonté-là, tout le reste va se rabaisser devant toi. Car ça, c'est la volonté de Dieu qu'on raconte qu'il a dans ce monde-ci des grands tzadikim. Et on doit raconter qui sont ces tzadikim-là. Et je me suis mis dans mon cœur et sur mes épaules de prendre ce travail, de prendre ma plume et d'essayer de faire ce que je peux faire à travers une main brisée, cassée, qui ne pourra pas faire un travail parfait. Mais le peu que je pourrais faire de rajouter, mentionner et d'écrire chaque phrase, chaque mot, chaque chose qui s'est passée, chaque histoire qu'il y a eu avec lui, je le ferai de manière la plus bonne que je puisse. J'ai appelé ce nom de ce livre-là le nom qui s'appelle le Chaye Moharan. Pourquoi? C'est quoi la raison que j'ai appelé ce livre le Chaye Moharan? Parce que la majorité de ce livre parle de sa vie sainte, qu'il a vécue dans ce monde-ci, qu'il a passé dans ce monde-ci, la vie réelle qu'un homme peut vivre dans ce monde. Car qui peut être l'homme appelé qui vit dans ce monde?
Déjà quoi?
C'est quoi la vie? Quelqu'un, dites-moi, c'est quoi la vie, Bémet? Je vous pose la question, c'est quoi la vie? Un chat qui vit, il vit? Je vous pose la question, mes amis. Un chat qui vit, ça s'appelle de vivre? Ça s'appelle pas vivre. C'est un chat vivant. Mais c'est pas vivre. C'est pas pareil. Il y a un chat vivant et il y a la vitalité. Un chat, il vit pas, il est vivant. Mais si tu veux décrire ce que c'est la vie, c'est pas un chat qui vit, c'est pas ça.
En français, c'est dur d'expliquer.
Non, mais vous comprenez le sens des mots, parce que ce que je dis, c'est pas inventé. Vivre, c'est d'avoir un sens.
C'est de vivre sa vie.
C'est un sens, c'est-à-dire un but.
Le sens, c'est l'existence.
Alors attends, alors c'est quoi l'existence? C'est quoi être? C'est ça la question que je pose, moi. C'est quoi être? Être, c'est quand il y a, quand j'ai, c'est, alors c'est quoi la vie d'abord?
Raison de vivre, en gros.
C'est quoi la vie? Comment décrète-t-on la vie? Même en mode goy. Même en mode goy. Comment décrire la vie? Alors, comment on décrit la vie? Exactement. Un homme qui souffre, ça s'appelle qui vit? Mes amis, ça s'appelle pas qui vit. Vous comprenez de quoi je parle? Alors, il vit, ok, il vit au niveau, il est vivant, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est quand il y a un sens.
Une raison de vivre.
Il y a un tahlit. Il y a un point du commencement et un point final. Là, ça s'appelle de vivre. Un monsieur qui prend sa voiture, d'accord? Il prend sa voiture. Il met la clé, il ouvre, il sait pas quoi faire, alors il prend sa voiture, il va commencer à rouler. Il va voyager à Netanya, Petah Tikva, Hadera, d'accord? Maintenant, il n'a pas en vérité un endroit. Il roule. Est-ce que cet homme-là, il voyage? Non, il roule. Il ne voyage pas, il roule. C'est quand il va voyager, le moment, le jour où il doit aller quelque part. Là, il est dans un voyage.
Une destination.
Une destination. Mais le fait qu'il n'a pas de destination et qu'il tourne parce qu'il va à droite, à gauche, alors ça ne s'appelle pas qu'il voyage, ça s'appelle qu'il roule. Il roule. Un homme dans sa vie, quand il n'a pas de but dans sa vie, alors sa vie, il n'y a pas de but. C'est comme un chat qui vit. Un chat qui vit, il a un but, il a quelque chose personnellement, à travers notre vision, je parle. Hein. C'est sûr qu'on peut toujours trouver une vitalité à travers chaque chose et que ça existe. Mais moi, je parle au niveau humain. Un homme qui se lève tous les matins, d'accord? Et il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Alors, il va regarder pendant une heure Facebook, après pendant une heure TikTok, après pendant une heure Instagram, après il va jouer aux jeux vidéo, après il va se mettre un petit film, après il va descendre à la pizza en bas, il va manger, après il va travailler 2, 3, 4 heures, parce qu'il n'a pas besoin plus que ça, et après qu'il a travaillé 2, 3, 4 heures, il va remonter chez lui à la maison, et il va re-s'asseoir sur son canapé. Alors, cet homme-là, il vit, oui, il vit, bien sûr qu'il vit, mais ça s'appelle ça la vie, c'est pas ça la vie. Et sa vie, elle est du niveau d'une mouche, elle est allée, elle fait comme ça, le jour où cet homme-là, il s'est créé un but dans sa tête, même s'il ne le fait pas le but, hein, même s'il ne le fait pas le but, le fait que le but existe dans sa tête, il vit quand même. Ça s'appelle de la vraie vitalité, parce que dans sa tête, ça trotte.
Il a un objectif,
il a un chemin, il a une vitalité, il y a des sentiments qui vont se réélever, il va se poser des questions, c'est quoi mon but dans ma vie, pourquoi il se passe des choses, il va être clairvoyant, il va ressentir des sensations parce qu'il a un chemin, parce qu'il a un but, parce qu'il doit se battre. Mais quand dans ma vie j'ai une vie banale où je vais au bureau, je gagne ma paye, je fais Shabbat, je redescends, je reviens au bureau, donc ta vie elle n'a pas de sens, t'as pas de but. Tu te bats pourquoi? Pourquoi tu te réveilles le matin? C'est quoi qui te met de la pêche pour te réveiller le matin? Alors c'est normal que tu te réveilles à 11h de l'après-midi, que tu dors le 3h du matin. En fait, tu fonctionnes en fonction de ton corps quand il est épuisé. Mais un homme qui se réveille le matin parce qu'il veut se battre, parce qu'il a un objectif à conquérir, parce qu'il veut atteindre quelque chose, sa vie prend un sens, sa vie prend une couleur, et ça s'appelle la vie. Et nous, chacun entre nous, on a des fois cette notion qu'on veut réellement se réveiller, se battre. Au début, c'est pour trouver une femme. On veut être amoureux, on veut se marier, on veut avoir des enfants. Donc tu vas te battre pour ça. Tu vas essayer de gagner de l'argent pour t'acheter une maison, pour avoir un peu d'argent pour le mariage, pour faire montrer à ta demi qui tu vaux, qui tu es. Alors ça te donne de la force. Tu vas te réveiller le matin, tu vas faire des efforts, tu vas voyager, tu vas faire. C'est qui te donne ce c'est cette vie de la vie. C'est la vie en elle-même qui va te pousser. Mais après, ce qui va se passer, si tu t'arrêtes à ça, tu te maries, tu as des enfants, après il n'y a plus rien. Il n'y a plus de but. Alors, bien sûr qu'il faut. Alors maintenant, tu as un nouveau rêve, c'est par exemple d'acheter une maison. Et là, tu vas te battre tous les jours, et ça va être un sens dans la vie. Et dès que tu vas acheter la maison, il faut tout de suite que tu te remets un autre but, même avant même. Le but, par exemple, éduquer les enfants, apprendre comment être un bon mari, ou alors faire d'autres choses, apprendre un nouveau métier, et ainsi de suite, ça te donne de la... Et il y a des gens, ils arrivent à l'âge de 70 ans, ils sentent qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ça y est, j'ai atteint mon objectif, je sors, je suis en retraite.
C'est un gâchis, tu peux commencer.
Non mais c'est pareil, c'est-à-dire c'est tout pareil. Et quand tu es en retraite, tu es en mode décomposition. Et là, tu vas à la Coupa Trolim, on te dit t'es malade, tu vas commencer à faire une aura de Keva à la Coupa Trolim pour acheter des cachets, et tu vas prendre tous les jours des cachets, et petit à petit tu vas t'éteindre. Pourquoi? Parce que le mec, il n'a pas de but, il n'a pas de quoi se battre, il n'a pas de chemin, il n'a pas de volonté, il n'a pas ce moteur qui te pousse. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ça s'appelle une vie. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nathan, mais Rabbi Nachman de Breslev avait plusieurs vies. C'est-à-dire quoi qu'il avait plusieurs vies? Chez un homme, pour qu'il vit, il a besoin de plusieurs buts. Naron, il a besoin de plusieurs buts. Parce que on est tellement nuls, nos buts, ils sont tellement petits qu'il faut que j'en trouve toujours des buts. Il dit Rabbi Nachman, lui, il n'avait pas besoin de plusieurs buts. Rabbi Nachman, il avait un seul but. Mais Rabbi Nachman de Breslev, en même temps, il avait plein d'autres buts. C'est-à-dire, un, il devait réparer les âmes qu'ils étaient dans le ciel. Après, il devait réparer les corps, c'était nous. Après, il devait dévoiler des réparations. Il devait dévoiler... C'est-à-dire, il avait plein de vies. Il a vécu plusieurs vies, Rabbi Nachman. C'est pour cela, il dit, Rabbi Nathan, j'ai appelé ce livre « Les vies de Rabbi Nachman ». Les vies. Car il a vécu plusieurs vies dans une seule vie, dans un seul corps. Et sachez, mes amis, aujourd'hui, maintenant qu'on est attaché à Rabbi Nachman et qu'on est proche à des tzadikim comme cela, c'est possible que nous aussi, on va vivre cela. Parce qu'on est à la fin de tous les temps, on n'a plus le temps de mourir et de revenir en réincarnation. Alors Akadosh Baruch Hu nous donne plusieurs vies à vivre. Et c'est pour ça qu'il se passe des chamboulements des fois dans notre vie, des choses inimaginables. Un homme, il a toute une vie avec un travail, avec des enfants, et d'un coup il divorce, d'un coup il n'y a plus de travail, d'un coup il n'y a plus d'enfants. Comme si une autre vie, en vérité c'est une autre vie qui va revivre dans une seule vie, il va vivre une autre vie.
Bosmani, je me fais sur plusieurs fronts ou c'est...
Chacun personnel, on ne sait pas, c'est les comptes.
Pour Rabbeinu, je parle.
Alors pour Rabbeinu, c'était, je ne sais pas aussi, on le verra, mais ça veut dire Rabbi Nachman, il a dit, chaque respiration que je respire, je me renouvelle totalement, je vis dans un nouveau monde, dans un nouveau chemin. Chaque respiration. Chaque respiration, il monte de niveau, il monte de... C'est des choses qu'on peut pas comprendre, mais on va l'étudier de manière, pas juste de lire en disant c'est le plus grand, mais de manière qu'on puisse voir et comprendre. Alors il dira, ben non... J'ai appelé donc ce livre « Les vies de Rabbi Nachman, Mechamat, Cherubo », mais ça perd d'abord parce que la majorité de ce livre parle de la vie sainte qu'il a passée, mon maître. Et lui, ça pourrait être le seul qu'on peut dire qu'il a vécu réellement. Ça veut dire en vérité, dans une vie de 60 ans, de 70 ans, de 80 ans qu'on va vivre, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, 148 ans. D'accord? Alors, combien de temps on a réellement vécu, Bémet, mes amis? C'est quand? Combien de temps on a réellement vécu? C'est quand? C'est combien de temps de notre vie qu'on s'est battu pour un objectif, qu'on a travaillé?
20 à 60 ans peut-être?
De 20 à 60 ans, non, même pas, mais la quantité de temps, c'est-à-dire, si tu prends ce temps-là, c'est quand? Ça a été. C'est une heure par jour, c'est deux heures par jour, c'est trois heures par jour, on va dire, des gens diplômés qui s'assoivent depuis le début jusqu'à la fin et qui étudient pendant sept ans et qui se cassent et qui se cassent. Ah oui. Alors eux, ils ont consacré beaucoup de temps, ils sont mis d'accord. Il dit, mais il y a eu quand même des heures, des jours et des minutes dont laquelle ta vie était banale. D'accord ou pas? Donc sur ces temps-là, tu ne peux pas dire que tu as vécu. Ça a été juste un cheminement d'une vie, une continuation. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, toute sa vie, lui, elle a été vécue. Chaque seconde, elle a été vécue. Chaque seconde, elle a été appréciée.
Mais il a écrit aussi son livre.
Qui? Il a écrit un Yémé Moharan. C'est pas pareil. C'est la différence entre Chaye Moharan et Yémé Moharan. Ça, c'est les vies et ça, c'est les jours. Et c'est une bonne question parce que c'est toute la différence entre le maître et l'élève. Parce que ce que Rabbeinu a vécu, il a vécu chaque seconde de sa vie. Chaque seconde, elle a été vécue.
Pleinement.
Ki ou aya ish chai behemet, car lui, il a vraiment vécu. Et je n'ai pas trouvé un homme qui pourrait ressembler à lui. Et il a toujours vécu une vie authentique. Et à chaque fois, il vivait une nouvelle vie. Mes amis, je vous lis ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est des paroles de vérité. Écoutez ces paroles, mes amis. Je sais que c'est pas, on n'a pas l'habitude de lire dans les cours, etc. Mais je vous ai dit, c'est tout un changement. Il faut s'adapter. Maintenant, ça c'est Rabbi Nathan qui parle des louanges de son maître. Je ne sais même pas par quel mérite on est là et on peut lire ces choses-là. Vous savez que ce livre-là, il a été imprimé. Ce livre-là, il a été imprimé 30 ans après que Rabbi Nathan, il est niftar. Oh. Rabbi Nathan. Ça veut dire plus de 70 ans après que Rabbeinu, il est niftar. Ça veut dire que la Chassidut Breslev, elle était déjà très grande. Il y avait plein d'élèves qui se disaient Breslev, mais qui ne connaissaient pas encore le Chaye Moharan. Et qu'ils étaient quand même attachés à Rabbeinu et des Tzadikim. Eux, ils étaient attachés à Rabbeinu sans connaître le Chaye Moharan, sans savoir les mots qui vont être dits là. Tous les mots, ils sont là.
Mais ils l'avaient vu.
Les élèves de Rabbi Nathan, non. Ah, et par exemple, les élèves de Rabbi Nathan, non.
Ils ont vu Rabbi Nathan.
Oui, alors je sais pas, mais je sais pas. Ça veut dire, c'est pas Pachout. Ça veut dire que ce livre-là, c'est un livre que les Breslev, il est nouveau même pour les Breslev. Ça veut dire les Breslev même ne le connaissaient pas, mes amis. C'est un chidouche. C'est-à-dire nous, on est là, ici, comme ça, on vient. C'est-à-dire c'est quelque chose de grand. On va entendre des choses comme je l'ai entendu une fois qu'il a dit, j'ai vécu aujourd'hui plusieurs vies. Que je n'ai jamais vécu des vies pareilles. Un jour, Rabbeinu, il a dit, aujourd'hui, dans ces 24 heures-là, j'ai vécu plusieurs vies. Et que j'ai jamais vécu ces vies-là. Ça, c'est les paroles de nos maîtres. Combien on doit être heureux d'appartenir à que le Ham Israël, il a eu un tzadik pareil. Et là, il a commencé à dévoiler des toutes petites torotes. La Torah numéro 18, qu'est-ce que c'est Lévi qui parlait? Mais il l'a dévoilé d'une manière très minime, comme c'est écrit dans le Likutei Moharan. Et plusieurs fois j'ai entendu de sa bouche des émerveillements qui s'émerveillaient de lui-même au sujet de sa vie et au sujet de la vie que le monde vit, leur vie, combien leur vie est horrible et combien leur vie est pesante, combien leur vie est gnout. Comment on dit gnout? Gnaï, comment on dit gnaï? Comment?
Sans goût, genre.
Non, dégoûtante, dégoûtant, pas belle. C'est notre vie à nous, mes amis. C'est notre vie à nous. C'est quoi notre vie à nous? On adore dormir, on adore bronzer. On adore aller en vacances, on adore. C'est le genre de vie que en fait on vit pour notre corps. Rabbeinu il vivait pour son âme. Et Rabbeinu il a utilisé son corps pour son âme. Nous aujourd'hui on utilise notre âme pour notre corps, l'inverse total. Il dit Rabbeinu combien de fois j'ai entendu de la bouche.
Je prie pour le Parnassa.
Et c'est qui, Achaim Shelaolam? C'est quoi la vie des gens? C'est ceux qui vivent sans penser à leur but de ce monde. Quand on vit dans ce monde et qu'on ne pense pas à notre but, qu'on ne pense pas à notre, comment on a dit, le point final, notre destination, mes amis. Pourquoi je suis venu? Le vrai but, il n'y a pas de vrai but, mes amis, mon frère. Le vrai but, il est simple. Le vrai but, c'est que tu es venu dans ce monde-ci pour connaître Dieu. Maintenant, comment? C'est ta vie qui fera ce travail-là. Toi, ton travail, c'est de trouver les clés, comment trouver Hachem dans ta vie. Et ces clés-là, ils ont été diffusés, écrits à travers Rabbi Nachman de Breslev de manière la plus simple possible. Trouver Hachem, c'est-à-dire, le mot et c'est le plus exact, c'est de dévoiler Hachem dans cette cachette de ce monde-ci. Le monde, il s'appelle comment en hébreu, mes amis? Olam. Olam, dans le mot Olam, vient du mot Ne'elam. Dieu, il est caché à travers ce monde. Ton travail à toi, c'est de le redécouvrir, le glorifier dans ce bas monde, le rendre le roi, pas que en haut, même en bas. Alors comment? D'abord en amenant des enfants et en leur parlant d'Hachem. C'est la chose la plus simple. Tu dois leur dire, il y a Hachem, on fait la brachot. C'est le commencement. Mais après, dans la vie normale de tous les jours, comment on le découvre? À travers des petits problèmes qu'il y a dans ce monde-ci, quand ça ne va pas comme tu as envie que ça se passe, quand tu as des choses qui t'arrivent, qui ne sont pas comme tu veux, quand tu as des difficultés, quand tu essayes plein de fois et tu retombes et tu retombes et tu remets et tu retombes et tu n'en peux plus. Et tu dis, mais c'est pas possible, mais toutes les cartes sont contre moi, mais Dieu il est contre moi, mais il faut quoi? Il dit Rabbi Nachman, à ce moment-là même, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu se cache et tu as la possibilité de le découvrir. Comment? À travers la foi, en te disant, je crois en Hachem, je sais que lui c'est le bon suprême. Et puisque lui c'est le bon suprême, tout ce qui me fait c'est bon. Donc c'est super ce qui m'arrive. Je vais m'attacher à mon Dieu, je vais lui dire que c'est dur pour moi, mais je crois en lui et je suis sûr que lui m'aime et je suis sûr qu'il m'adore et qu'il m'aide et qu'il veut et je le glorifie dans ce bas monde et je lui dis Hachem, je suis ma mine, que tous mes problèmes c'est toi et c'est toi le roi et c'est sûr que c'est bien pour moi. À ce moment-là même, t'as pris la couronne que t'as et tu l'as mis sur la tête d'Hachem Yitbarach, tu l'as glorifié dans ce monde et c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde et c'est notre travail toute notre vie. Et c'est ça notre but, de le découvrir chacun dans sa manière. Un, il va être un postier, un, il va être un... Chacun dans son travail, chacun dans sa vie, chacun dans ses chemins, là où il est né, dans quelle famille il est amené. Et ainsi de suite, avec quelle femme il va être marié. Tout ça, c'est un système pour découvrir Hachem à travers ton niveau, à travers ta vie. Toi, tu devras te battre toute ta vie de le glorifier tout le temps. Et plus tu vas le glorifier, plus Hachem, il va se cacher dans des cachettes que tu vas le trouver. Ça va être un jeu, ça va être adorable, ça va être super. Jusqu'à que quand il va t'arriver des problèmes, tu vas te mettre à rigoler parce que tu vas dire, oh là là, là Hachem, il est en train de se cacher. Mais quand je vais le découvrir, ça va être une rigolade, c'est ça les rigolades. Ça va être un jeu, ça va, c'est ça la simra, on rigole de ce monde. C'est comme ça, il y a Kadosh Baruch Hu, on m'amage, c'est ça, c'est un jeu. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il va être enlevé, sa Astarat Panim, il va se découvrir dans le monde. Et celui qui a été méritant, eh ben, il sera proche de Dieu au tout début, c'est lui qui va aider les gens. Et Rabbi Nachman de Breslev, ça a été lui un des tzadikim, qu'il était depuis tout petit, orphelin même de son père, il était orphelin de tout le monde. Il voulait être avec ses parents, il voulait, mais il n'avait pas. Alors il est allé dans la forêt et il a dit à Hachem, c'est toi mon père. Tous mes problèmes, je vais te les dire. Toutes les fois que j'aurai besoin d'attention, je vais te le dire. Quand je ne comprends pas la Gemara, je vais te le dire. Quand je veux des bonbons et je veux m'amuser, je vais te le dire. Quand je veux m'amuser et que je n'ai pas de copains, je vais m'amuser avec toi. Et Rabbeinu, tout petit, il allait dans les forêts, il était là, il parlait avec Hachem et il disait, mais où tu es? Je te parle, je ne te vois pas, tu ne me réponds pas, c'est pas possible. Tout ce que nous on a, tout pareillement. Et vous croyez que Dieu, il s'est réveillé d'un coup? Pas du tout. Il a dû pleurer encore et encore, supplier, demander encore et encore, jusqu'à qu'il a baissé les bras, il a désespéré. Quelques jours, et après, il s'est repris, il a dit, oh là là, j'ai honte, Hachem, je t'ai laissé. Et Mamash, il a mené toute une cour, à Kadosh Baruch Hu, toute une cour. Il a supplié, il a demandé, il ne l'a pas laissé.
Il a pris ça du Baal Shem Tov.
Du Baal Shem Tov, mais comment? Quand il était petit, lui, il c'était un petit enfant turbulent. Alors, il se cachait en dessous de la table. Et quand il se cachait en dessous de la table, il y avait tous les élèves du Baal Shem Tov qui venaient pèleriner le Baal Shem Tov, comme sa maison c'était la maison du Baal Shem Tov, et bien il entendait toutes les histoires, comment ils étaient prononcés, comment ils étaient faits. Et il a appris de tout cela, il a appris qu'il faut aller dans la forêt, il a demandé à Hachem. Et tout cela, mes amis, Rabbeinu, il s'est trompé plein de fois, il a jeûné, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, il est tombé malade, il a appris sur son corps. Et à la fin, il nous a donné le bouquet final. Il nous a dit, je vais vous donner l'essentiel maintenant, tous les problèmes que j'ai fait, moi je vais vous donner. L'essentiel, c'est d'être joyeux, celui qui croit qu'il peut détruire, il peut construire. Le désespoir n'existe pas, tout ce monde est un pont très étroit et l'essentiel, c'est de ne jamais avoir peur. Et ainsi de suite, Rabbeinu nous a donné des chemins, c'est quoi l'essentiel, c'est quoi les importances, à travers cela on doit avancer. C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan. Ça, ça s'appelle une vie qui a été vécue. Ça, ça s'appelle une vie qui a un sens. Ça, ça s'appelle des vies que... Vaklal, pour résumer tout cela, chez Ikar HaChaim, c'est quoi l'essentiel de la vie? Uchaim Amitim, c'est de pouvoir vivre une vraie vie.
Donc c'est être sur le ring tout le temps?
Alors, toi tu dis sur le ring tout le temps, mais je vais te dévoiler un secret. Que tu le veuilles ou pas, t'es sur le ring, frérot. Le jour où ta mère, elle t'a mis dans ce monde-ci, on t'a mis sur le ring. C'est le Yetzera qui dit, des fois tu descends du ring, t'es en mode truc. C'est le Yetzera, c'est du mensonge, t'es tout le temps sur le ring, frérot. Tout le temps. Et t'as pas des milliers de spectateurs, t'as des centaines de milliards de spectateurs. C'est qui? C'est tous les gens depuis Adam Arichon jusqu'à aujourd'hui. Ils sont spectateurs de nous, de chaque génération. Et ils supplient Hachem que tu gagnes le combat, que tu puisses terminer, que tu puisses faire ce que tu dois faire. Et on est dans ce ring là. Et on croit qu'on est ton truc, bien sûr. Mais tu vaux cette responsabilité. C'est ça que c'est important de savoir. Tu vaux cette responsabilité. T'es pas un nul, c'est ça que je dis à chaque fois. On n'est pas des rikiki. On n'est pas des rikiki. Arrêtez de croire qu'on est des rikiki. On est des bétons armés, on est des soldats, on est des vaillants. Des guerriers. C'est tellement beau, je suis obligé de vous le lire en hébreu, mes amis. Ve'aklal, ouais. Pour résumer, She'ikar ha'chaim ou chaim amitim. Mais c'est quoi ces mots? C'est qui a écrit ces mots? Et c'est quoi chaim amitim? She'ichochma amitim. C'est de vivre avec la vraie sagesse. Parce que même dans les sagesses, il y a des sagesses trompeuses. Celui qui connaît la sagesse suprême, extrême, originelle, authentique, du Or Haganouz, lui, il sait vivre. Et c'est de cet homme-là qui nous enseigne sa sagesse et sa vie à travers ces livres-là. Bien sûr qu'on peut. Il est descendu pour nous. Rabbeinu, il est descendu pour nous, pas pour des tzadikim. Kemoshe Katouv, et ça c'est écrit où? Dans les proverbes de Shlomo HaMelech. Il y a écrit quoi? Ve'achorma techaye et bealea. La sagesse a la possibilité de donner la vie à celui qui le porte. Ça veut dire que celui qui n'a pas de sagesse en lui, celui qui n'a pas cette sagesse suprême, ça ne s'appelle pas qu'il vit. Pour vivre, il faut avoir de la sagesse. Je vais donner un petit exemple. D'abord, dans un exemple très micro. Très micro. Si on prend maintenant un enfant, d'accord? Tu prends un enfant et tu le mets à Euro Disney dans le train de la mort. Tu connais le train de la mort à Euro Disney?
Le train fantôme,
exactement. Le train fantôme. D'accord? Alors tu le mets dans le train fantôme, tu mets ton fils dans le train fantôme. Il a 6 ans, d'accord? Il a 6 ans. Lui, tu le mets dans le train fantôme. Les grands ne peuvent pas rentrer dans le train fantôme. Et il voit son papa, il dit, mais papa, qu'est-ce que t'es en train de me faire là? T'es en train de me mettre dans un... Tu vas me laisser passer et toi tu restes là, mais c'est... Moi je veux être avec toi, moi je veux kiffer avec toi dans le Euro Disney. Et toi tu dis à ton fils, mais non, je te dis, tu vas kiffer, tu vas voir, tu... Et lui, mais pas du tout. En plus, fantôme, mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais bon, il va dire, bon, allez, vas-y, on va s'appuyer sur mon papa. Et depuis la première seconde que le train fantôme s'est mis en marche, depuis la première seconde, il a que fait angoisser, pleurer, suer, et Mekalel, il l'insulte chaque seconde, maudit. Il va rentrer, on va lui faire peur des dizaines de fois. Et le papa, il rigole, parce qu'il rigole, et lui, il fait pipi sur lui-même. Est-ce que ce petit enfant, il a vécu une vie, ce petit enfant, il a vécu un Gehinom, Nachon? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la sagesse. Mais au moment où tu vas lui expliquer avec un peu de sagesse quand il va grandir, tu vas lui dire en fait tout le concept de ce train fantôme, c'est pour te faire un semblant de peur, ça va te monter un peu l'adrénaline, tu vas avoir des sensations dans ton cœur qui sont sympathiques, prends ça comme un jeu, rigole, prends-toi là. Là, quand tu rentres dans le train fantôme et tu te mets à l'âge de 15 ans, 16 ans, tu vas rigoler, tu vas te marrer, tu vas donner même des coups aux petits trucs qui sortent, etc. Et tu vas dire, ah, c'était kiffant et tout. Mais l'enfant, tu vois ici que quand tu as de la sagesse, tu vis tout autre chose que la chose que tu vis. C'est du dad, la sagesse amitié, c'est du dad de savoir un homme, par exemple, Chas v'Shalom, il souffre une souffrance dans sa vie. Mais je ne sais pas, on va dire une souffrance, il a une souffrance dans sa vie. Je ne sais pas ce que c'est. On va dire il a des problèmes de Shalom Bayit. Tout le temps, il a des problèmes de Shalom Bayit, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et il ne voit pas la fin, il ne voit pas la fin, il ne voit pas la fin. C'est un calvaire, ça fait des années. D'accord ? Alors un monsieur normal, il peut mourir. Il peut terminer sa vie en souffrance de ça. Il peut mourir. Il y en a des attaques au cœur, des attaques au cerveau. Ça peut emmener une personne
à
un endommagement réel, physique, mamache. Et ça, c'est à cause de quoi ? À cause des gens qu'ils voient le problème et qu'ils essayent de se mettre au problème tête contre tête, coup contre coup. Mais frérot, tu peux pas te battre contre ce monde. Alors, il y aura un grand sadique qui va venir et il va te dire quelque chose d'autre. Il va te dire, tu sais pourquoi tu souffres de ta femme ? Alors, je vais te donner. Parce qu'en vérité, ta femme, c'est toute la perfection de toi. En fait, toi, tu vas te perfectionner, tu vas te complémentariter que à travers ta femme. En fonction des problèmes que ta femme est là, et en fonction de tes problèmes que tu as, vos deux problèmes, si vous arriverez à les travailler ensemble, à ne pas tenir tête, à essayer de s'entraider, de comprendre qu'on est deux. Hachem, il m'a emmené dans ce monde-ci avec une âme, comment on dit, une âme sœur. Et cette âme sœur, c'est que toi, et c'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce qu'il y a mieux que ça ? Alors on va se prendre en main et on va peut-être s'énerver l'un avec l'autre, mais on va toujours se rappeler qu'on est fait l'un pour l'autre et que c'est que nous deux qu'on pourra se travailler ensemble. Car si on réussit ce combat-là, on va ressortir et on va vivre une vie que jamais les autres, ils ont vécu une vie pareille. Dès que le mec il entend ça, il dit « Oulala, je vois un autre truc là. Là, je vois tout un autre chose. » Et là, petit à petit, la personne, il commence à découvrir et à voir des nouvelles facettes sur sa femme, des nouvelles facettes sur lui-même. Et il va commencer à creuser, à attacher des petits bouts, ça va créer des liens, ça va refondre des choses, et etc.
Et ça donne un but.
Ça s'appelle de la sagesse. Ça s'appelle que la personne... Maintenant, un homme comme ça, il vit réellement. Il vit réellement. Donc la vérité, la vraie vie, c'est une vie avec de la conscience de Dieu, avec du dat, la chorma amitit. Et il dit Rabbi Nathan, cette sagesse, Rabbi Nachman de Breslev, il a atteint de manière parfaitement à travers le travail, à travers de l'amertume, à travers des sacrifices qu'on lui a fait. On lui a pris sa femme, on lui a pris ses enfants, on lui a tué un par un. Et Rabbeinu, il a continué, il a avancé. Il a dit, je crois pas à ce monde, je crois dans la vérité, je crois dans la sagesse, je crois dans la simra, dans le bien, dans le bon, dans le positif, le mal n'existe pas, etc., etc. Et il a tenu le combat, il a gagné le combat avec une tête levée. Et ça, il dit, Rabbi Nathan, je veux vous le donner sur un plateau. Je veux que vous sachiez que ça s'est passé, que ça a été donné. Quand Rabbi Nachman de Breslev dit une parole, c'est pas un penseur ou un sage qui a découvert un chemin et qu'il dévoile. C'est pas une invention comme Einstein qui a dévoilé que E égale MC2. C'est pas ça. C'est un travail de vie qu'il a obtenu quelque chose de nouveau. C'est nouveau. Ce concept n'a pas existé auparavant. C'est un tout nouveau chemin. C'est toute une nouvelle vision qu'au moment où on va accepter cette vision, cette volonté de vouloir vivre une vraie vie, une vie qu'on peut appeler une vie réellement. Ça, ce chemin-là, on va nous le proposer à travers le livre du Chaim Oran. Et il dit, Rabbi Nathan, moi je l'ai vu de mes yeux comment un homme a vécu dans ce monde-ci. Comment il parlait de la vie, comment il regardait la vie. Et il dit donc, Vikar, donc l'essentiel de la sagesse, c'est de toujours essayer de se fatiguer pour connaître notre Dieu qui s'appelle la vie de toutes les vies. Chaya Chaim. Hachem, il s'appelle la vie de toutes les vies. Hachem, c'est lui qui vit en nous. Et chacun, plus il est proche de Dieu, plus il est vivant. Moins on est proche de Dieu, moins on est vivant. D'ailleurs, mes amis, c'est quoi toutes les drogues, et c'est quoi toutes les vacances, et c'est quoi toutes les extrêmes qu'on adore faire, les extrêmes, toutes les choses qui sont pas normales, qu'on va faire, des sauts, ou alors des grands travails où tu vas investir des milliers. C'est pourquoi des sensations fortes. Pourquoi on cherche des sensations fortes? C'est parce qu'on est tellement mort de dedans qu'on a besoin d'être busté. On doit être déchargé d'une décharge électrique parce que sinon on se sent pas vivre. On a besoin de faire des extrêmes dans notre vie, parce que sinon on ne vit pas. Il dit Rabbi Nachman, je vais vous apprendre à vivre de la manière la plus simple possible, que de boire un verre d'eau, ça va vous donner de la joie. De voir une fleur, ça va vous donner du renforcement. De sentir une fleur, ça va vous donner de la vitalité, de l'espoir pour la vie. De voir le soleil se lever tous les matins, ça va vous donner de la force, de continuer malgré tout, en avançant avec la tête haute. De ça, il parle, Rabbeinu. Ça s'appelle de la vie, et pas l'inverse. C'est pour cela que les Rechaïm, même quand ils sont vivants, ils sont appelés des morts. Et les Tzadikim, même quand ils sont morts, ils sont appelés vivants. C'est qui dit ça, mes amis? C'est la Gemara dans Maseret Brachot. La Gemara dans Maseret Brachot nous enseigne que les Rechaïm, même vivants, ils sont appelés des morts. Et les Tzadikim, même morts, ils sont appelés vivants. Pourquoi? Parce que eux, ils sont attachés à la racine de la vie. C'est qui la racine de la vie? C'est Dieu. Donc plus je suis attaché à la vie, à Dieu, donc je suis attaché à la vie. Donc il n'y a pas de différence quand je suis vivant et quand je suis mort, puisque je suis attaché à Dieu, je suis toujours vivant. Mais un rachat, un homme qui est éloigné, qui est mécréant et qui n'est pas propre, un homme comme ça, il n'est pas à côté de Hachem, il n'essaye pas de se rapprocher de Dieu. Donc il est loin de la vie, il est loin de l'essence de la vie. Donc c'est pas lui qui va être appelé vivant, même s'il est vivant. C'est pour cela qu'on dit Yakiv Vatem Advekim Badonai Elohechem Chaim Kulchem Ayom. C'est qui vivent tous? C'est qui Chaim Kulchem Ayom? C'est qui Vatem Advekim? Ceux qui sont collés à Hachem. Ceux qui sont collés à Hachem, ils vivent la vie. Parce que eux, ils sont contents, même du petit peu qu'ils ont, même quand il y a des problèmes, ils arrivent à se contenter, et eux, ils n'ont pas de soucis. Pas parce qu'ils n'ont pas de soucis, parce qu'ils ne se soucient pas. Et il dit Rabbi Nathan, et c'est sur cette vie-là qu'on demande à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on demande à Rosh Hashanah, mes amis? Zochenu lechaim, melech hafetz bachaim, verkotvenu besefer achaim. Le mancha Elohim Chaim. C'est quoi cette vie qu'on répète à chaque fois? Zochenu le Chaim, Melech Hafetz Bachaim, Vekotvenu Besefer Achaim, Le mancha Elohim Chaim.
C'est la vérité.
C'est quoi? C'est, on parle de la vie amiti, la vraie vie, la vie quand on est proche de Dieu, pas de la vie qu'on vit d'un chat. La vie qu'on vit, c'est la vie d'un. Comment ça s'appelle les gens qui achètent, qui consomment, de la consommation tout le temps, consommer, goûter, toujours goûter la.
On est en fausse route, quand on est en fausse route, et ben on perd notre temps.
Exactement.
On perd notre vie,
on brûle notre vie. Exactement. C'est la fameuse histoire que la Gemara elle a racontée, mes amis. Écoutez, c'est important. Ce que je vous dis, mes amis, c'est des paroles très très simples, très très simples. Mais c'est des paroles qu'ils doivent brûler en nous toute la vie. Un jour, on a raconté une histoire. Un jour, un roi a amené un homme qui lui a fait une bonté. Et il lui a dit, écoute, la bonté que tu m'as fait, je vais te donner une récompense. Et la récompense que je vais te donner, c'est je vais te donner les clés de mon trésor. Pendant une heure, tu vas ouvrir mon trésor. Tout ce que tu veux prendre, tu prends. Pendant une heure. Voilà, tout. Même moi, je ne vais pas être avec toi. Je te donne les clés, tu prends tout ce que tu veux. Maintenant, le roi, c'est pas un imbécile. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Dans le chemin pour aller dans le trésor, il a mis là-bas une table avec les aliments les plus fous, des chefs les plus grands au monde. Des aliments de toutes les couleurs, avec des odeurs de toutes les odeurs, avec un goût comme inimaginable. À côté, il a mis des musiques phénoménales, d'une beauté inimaginable. Après, il a mis des arts exceptionnels. Et comme ça, dans tout le chemin, il a mis des, des, Et là, le monsieur, il vient, il se rapproche, et dès qu'il voit le chemin, il dit « Oh là là, c'est quoi ces aliments-là » Il regarde la montre, il dit « ça va une heure, on peut prendre plein de choses dans une heure. » Alors, je vais goûter des petites crudités. Et il commence à travers les crudités, il commence à goûter ça, à ça, et le temps, il passe, après, il va écouter une musique, après, et dès qu'il veut remettre la clé pour ouvrir le trésor, l'heure est déjà passée. Et là, le roi, il vient, il lui prend la clé, et le monsieur lui dit, je t'en supplie, je veux prendre une chose. Il dit, mais quoi une chose? Je t'ai donné une heure. J'étais prêt à te donner pas une chose, des centaines de milliers de choses que tu prendrais, il était à toi. Mais pour cela, il y a un temps, ce temps, c'est une heure et pas plus et pas moins. Comment ça se fait que tu l'as goûté, gaspillé dans des culinarités, dans du sport, dans des arts, dans des musiques, dans des films? Comment t'as regardé? T'avais une heure. Mes amis, quand on va monter dans le ciel, après 148 ans, Bezrat Hashem, on va dire Hashem, mais je veux encore descendre encore une minute, faire encore une mitzvah, une seule, la plus petite. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, mais je t'ai donné une vie en entière. Ouais, mais il y avait le TikTok. Ah. Eh oui, mes amis, Bémet, c'est de ça qu'on parle. Et t'as vu ce film? Et j'ai vu ce film. Et t'as vu, c'est un nouveau film qui est sorti. Ah, t'es obligé de le voir, ce film. Mais qu'est-ce que on se renforce dans le mal en perdant notre temps? Alors je dis pas qu'on n'a pas le droit, etc. Chacun il fait ce qu'il veut, mes amis. Mais il faut savoir qu'il y a des proportions. Ça veut dire il faut savoir que dans ce monde-ci, ce que t'attrapes, c'est à toi et personne te l'enlèvera. C'est énorme quand on te dit ça. Imagine-toi, tu travailles chez quelqu'un, que cet homme-là, il dit « Tout l'argent que tu gagneras chez moi, personne te l'enlèvera. » Demain matin, je vais au travail, ce travail-là. Mais même si c'est travailler chez les poubelles. Personne ne prendra ça. Là, ce qu'on prend dans ce monde-ci, personne ne nous le prendra. Ça s'appelle la chaïm amitim de la vraie vie. C'est ce que nous, on veut. Et il dit, Rabbi Nathan, c'est sur cette prière-là qu'on prie à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, Zochenu lechaïm, Uptov lechaïm. Car à part cela, tout est de la buée. À part cela, tout ça ne s'appelle pas de la vie. Car vivre des plaisirs et des désirs charnels de ce monde-ci, ça s'appelle pas vivre, ça s'appelle sentir, ça s'appelle toucher. Vivre, c'est à travers de la sagesse, avec une compréhension, avec un raisonnement, à travers un but, à travers un rêve qu'un homme, il se crée dans son cerveau, et là, sa vie prend un sens.
La vie, c'est la Torah.
La vie, c'est la Torah et les tzadikim. C'est ce que les tzadikim nous dévoilent. Il y a la Torah simple. C'est quoi la Torah simple? C'est l'application des mitzvot. Mais à part l'application des mitzvot, il y a le lien. Comment je m'attache à Hachem à travers les mitzvot. Et ça, les tzadikim, ils nous enseignent. C'est la Emouna. C'est ça la Emouna, de nous renforcer dans la Emouna. Et sur une vie de telle, ça a été écrit dans la Torah, « Les man tichye varach tayamim ». Hachem, il veut que tu vives cette vie-là. Les manirbu yemechem vime benechem. C'est quoi les manirbu dans Kriyat Shema? Tout ça, Kadosh Baruch Hu, il nous promet que si on aime à Kadosh Baruch Hu, on sera méritant que même nos enfants vivra une vie de telle. Aval chaim shezacha ou zichono livracha. Mais la vie que notre maître, lui, il a vécue, aya bemala eliona, c'était bien plus haut que tout cela. C'était bien plus émerveilleux que tout cela. Heureux l'homme qui aura le mérite de ressentir un tout petit peu une étincelle de la gravité de la vie que lui, il a vécue. Car la vie qu'il a vécue, c'est une vie longue, une vie belle, une vie authentique. Une vie qui est, bien sûr, une référence à la fameuse histoire des sept mendiants, où les sept mendiants, ils ont béni le couple qui puisse vivre une vie longue, une vie réelle. C'est quoi la vie longue et la vie réelle? C'est pas la vie longue jusqu'à 120 ans. La vie longue, c'est que chaque seconde, elle soit vécue, que chaque seconde, elle a un sens. Et la vie réelle, c'est que je puisse la vivre à travers Béhémet, la sagesse suprême. Et sur ça, David Ameler, il a dit dans les Tehillim, « Todi eni orach chaim ». Il demande à Hachem, montre-moi le chemin de la vie. David Ameler, il savait qu'il y a une vie, qu'on peut vivre une vie qui est la vraie vie. Et il demande à David Ameler, « Todi eni orach chaim ».
Tu avais donné l'exemple d'Abraham sur la vie qu'il a vécue, une vraie vie. Il a vécu une vraie vie.
Avraham Avinu, lui, non, lui, il a vécu une longue vie. Avraham, Arichut Yamin, Avraham, Baba Yamin, c'est ça, c'est que lui, il marchait vers sa vie. C'est-à-dire, c'est lui qui créait sa vie. C'était pas le temps qui créait sa vie, c'est lui qui créait son temps. Nous, comment on vit, nous? C'est la vie qui nous donne la vie. D'accord? C'est grâce au temps qu'on vit, en fait. Mais en vérité, c'est quoi le Inyan? Avraham Avinu, lui, il créait le temps dans sa vie. Oui. Todien yora chaim. Ubikashti me'et ameayen. Je demande aux lectures.
Aux lecteurs.
Je demande aux lecteurs. Les bal ipale be'ena.
Celui qui va approfondir, non?
Hein? Ubikashti me'et ameayen. Pour celui qui va approfondir. Qu'il ne s'étonne pas, Imlifamim et Matsebit Varen, ou si des fois vous allez trouver dans mon ouvrage, Kamasichot Vesipurim et Rabbein Uzal, plusieurs conversations et histoires qui ont été écrites dans un autre endroit, et qu'on croit qu'ils sont des choses simples. Ici, il dit Rabbi Nathan, ça se pourrait que vous allez lire des choses qui ont l'air de la plus grande simplicité, et tu ne vas pas du tout comprendre pourquoi ils ont été écrits. Et des fois tu vas lire des choses comme si que tu ne vas pas du tout comprendre. Comme par exemple, mes amis, le deuxième paragraphe du Chayei Moharan, ce sont les histoires que Rabbi Nachman a vues dans des visions. Rabbi Nachman a eu des visions. Il voyait des choses. Et des fois il raconte ce qu'il voit. Et on va les lire. Et c'est des histoires. Et c'est des histoires un peu... très très bizarres.
Des rêves, quoi.
Non. Des visions. Des vraies visions. Des choses pas compréhensibles, des choses pas du tout compréhensibles. Et il n'y a pas d'explication à ça, il n'y a pas de raisonnement à ça, il n'y a rien. C'est comme des contes, mais encore des contes, il y a un sens. Là, il n'y a même pas de sens. Hein. C'est une histoire sans... Mais c'est des visions que Rabbeinu, il a vues et qu'ils incluent en elles des sagesses qui ont été prises des endroits les plus élevés possibles qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et Rabbi Nathan, il a quand même... vu l'importance de les écrire et de les raconter. Vekaché Benav, et quand le lecteur il va les lire, il va se poser des questions. Pourquoi ils ont été écrits si je ne vois pas le sens qui se cache? Mais en vérité, il faut savoir que dans tous les mots, dans toutes les phrases, et dans toutes les conversations, et dans toutes les histoires qui ont été écrites ici, tous, ils ont des choses très très élevées. Et celui qui aura le mérite de se tenir debout, d'entendre et de voir et de regarder la profondeur qui se cache et les lumières et les étincelles qu'il a cachées à travers les conversations, à travers des paroles et des visions qu'il a vues, alors il pourra un tout petit peu comprendre qu'est-ce que c'est la grandeur de ce maître-là et combien de choses ils incluent en elle. Des choses élevées et émerveillées comme la bouche ne peut pas expliquer. Et tout cela pour emmener la personne à se réveiller pour servir notre Dieu, béni soit-il. Car l'essentiel de tout ce qu'on raconte sur notre maître, il a pour un seul but, c'est de se rapprocher d'Hachem. Et à travers chaque parole et chaque mot qui est sorti de sa bouche sainte et pure, je n'ai pas pu me retenir de pouvoir écrire tout ce que j'ai pu me retenir, entendre à droite et à gauche de manière parfaite, à travers mon idée et ma mémoire. Et il y a des fois des endroits où j'ai perdu un petit peu la mémoire et je n'ai pas écrit, mais j'ai écrit juste ce que je me suis rappelé, pour que les choses puissent rester. Et celui qui cherche la vérité pourra trouver dans ce livre, dans ses conversations et dans ses propos, des choses merveilleuses énormément, avec un éveillement énorme dans la Avodat Hashem, dans le service divin. Et il va trouver aussi des conseils et beaucoup de renforcement, comment se renforcer dans nos chutes, pour ne pas baisser les bras, pour ne pas désespérer, sous aucun cas, sous aucune situation. Car tout ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très fort. Même les paroles simples de Rabbeinu qu'il a sorties de sa bouche, ils ouvrent une très grande lumière et ils ont une possibilité de très grande force pour réveiller tout le monde en entier pour servir Hachem. Car c'était l'essentielle volonté de mon maître Rabbi Nachman de Breslev pendant toute sa vie, Tout ce qu'il a fait, c'était de rapprocher le maximum de gens à Hachem, de faire agrandir la conscience dans le monde combien Dieu est grand. Et tout ce qu'il a fait pendant tous les jours de sa vie, et lui-même il a dit de sa bouche que même des conversations qui ont l'air banales, il faut tout écrire, car dans chaque conversation que j'ai dit, il y a une concentration et un sens qui est très profond et qui inclut beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et tout homme peut trouver des conseils merveilleux et des chemins, des bons sens, comment servir Hachem à travers les paroles et les phrases que notre maître a dit. Donc dans ce livre-là a été écrit toutes les histoires sur Rabbeinu avec des conversations et des propos qu'on a entendus de sa bouche. Car tout ce qui sort de sa bouche est compté comme de la Torah. Donc tout a été écrit. Il y a aussi des histoires qui ont été reçues de bouche à oreille entre les élèves. Et dans tout cela, on comprend un petit peu la grandeur de Rabbi Nachman de Breslev. Ce que la bouche ne peut pas décrire, ce que le cœur ne peut pas penser et ce que le cerveau ne peut pas comprendre. Et dans un moment comme ça, il faut se taire et idom veishtok. Et chacun, il doit comprendre dans son cœur qu'est-ce que ça fait, ce fait qu'il y a autant de paroles et de phrases que Rabbeinu, il a dit, combien ça lui donne de l'importance. C'est qui cet homme-là? Mais il y a des choses que je n'ai pas pu tout écrire, dit Rabbi Nathan. Il y a des choses que j'ai dû cacher. Il y a des choses que j'ai dû écrire à travers des remazines, à travers des allusions. Il y a des choses que j'ai racontées à moitié et il y a des choses que j'ai juste mentionnées un point parmi la chose. Car il y a eu à l'époque de Rabbeinu une très grande machloket, il y a eu une très grande opposition. Et à cause de l'opposition sur Rabbi Nachman de Breslev, je me suis senti que je ne peux pas écrire tout ce que j'ai vu de mes yeux et tout ce que j'ai entendu de mes oreilles. Et je suis obligé de mettre à ma bouche une barrière où je ne peux pas raconter sa grandeur à lui. Et combien c'est un homme saint, combien c'est un homme élevé, combien il est au-dessus de toute notre connaissance. Mais le petit peu du petit peu qu'on a eu le mérite de ressentir et de voir et de comprendre, cela je suis obligé de l'écrire de manière cachée à cause des oppositions qu'il y a eu sur lui. Même que ça serait une bonté pour le monde de dévoiler qui était cet homme Rabbi Nachman, mais je l'ai écrit de manière que celui qui veut découvrir réellement et de voir et de regarder, il pourra le voir et le regarder. Pour les futures générations, pour les personnes du futur qui n'ont pas connu ces hommes et ces élèves, pour eux je vais écrire ce livre. Pour leur paix, pour leur vie, pour qu'ils n'oublient pas ce que nous on a vu, ce que nous on a senti. Pour que les générations à venir, ils puissent savoir combien Hachem est grand, qui nous a envoyé des tzadikim, et que le désespoir n'existe pas. Et qu'on a eu le mérite, dans des générations auparavant, d'une lumière aussi grande, parfaite et pure. Une lumière qui a été cachée et enfouie à travers Dieu lui-même. Heureux l'homme que les yeux ont vu cet homme. Heureux l'homme que ses oreilles ont entendu ses propos. Heureux l'homme que sa bouche prononce les prononciations de cet homme-là. Et celui qui aura le mérite d'approfondir son iyun, c'est-à-dire son approfondissement dans ses livres, il va comprendre des choses que nul homme pourra comprendre dans ce monde-ci. Voici les paroles du tout petit Nathan, fils du Rav Naftali Hirtz. Amar Amatik, la parole de celui qui l'a emmené à l'impression. C'est Rabbi Nachman de Tcherin, et il a amené le Rav de Teplik. C'est le Rav de Teplik qui a écrit ça. L'Inyan Alama Taor Agadol Vaniflash El Admon Zal. Il faut savoir avant tout, mes amis, qu'un grand tzaddik comme celui-là, alors dans le ciel, il y a beaucoup d'accusateurs leurs yeux ils sont ouverts et qui veulent anéantir ce genre de tzadikim là. Alors on est obligé de cacher cette lumière. On est obligé de cacher les lumières des très grandes tzadikim. On ne peut pas dévoiler leur grandeur, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le ressentir. Du ciel même, on est obligé de rabaisser et de cacher cette lumière du ciel même, mes amis, du ciel. Hachachidouche Kamou est une nouveauté comme lui, il n'y a jamais eu, même auparavant, pendant des générations avant. Une nouveauté comme lui n'a jamais existé. Comme ça, on l'a entendu de sa propre bouche qu'il a dit formellement. Et combien même avec ce chidouche-là, la sof, en fin de compte, il est complètement caché. Il est caché d'une cachette que même le fait qu'il est caché, on ne sait pas qu'il est caché. Et jusqu'à que la majorité du monde, ils n'ont pas le mérite de venir sur son
tombeau.
Et même que Rabbeinu propose que tout celui qui viendra à son kever, à son tombeau, il aura une réparation éternelle, combien même les gens ne font pas le voyage à Ouman. Et il dit Rabbi Nachman, on doit trouver un remèze. Et c'est quoi le remèze de cette chose-là? Parce que ce n'est pas compréhensible. Rabbeinu propose une réparation éternelle et la personne n'en fait rien de ça. Comment c'est possible? C'est pas possible. Il dit le Rav Alter de Teplik, non, il y a une explication à cela. C'est quoi le remèze? Il dit le remèze, c'est que Rabbeinu, il a dit tout mon inyan, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Nachon? Kol isko Rosh Hashanah. Et sur Rosh Hashanah, il y a écrit Bakese le yom. Chagenu, Bakese liyom chagenu. Comme chez Darshu Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim sur Bakese liyom chagenu? Le mot Bakese, c'est vient du mot mechase, c'est-à-dire caché. Il est caché. C'est-à-dire, puisque Rabbanan, tout son inyan c'est Rosh Hashanah, et tout le inyan de Rosh Hashanah c'est Bakese, Bakese c'est ça veut dire mechousé, ça veut dire que Rabbanan il est complètement caché. Et il dit, et c'est de la même façon avec Moshe Rabbeinu. Il y a écrit que sur Moshe Rabbeinu, son tombeau n'est pas connu dans le monde. Ça veut dire que Hachem, il a caché le tombeau de Moshe Rabbeinu. Et il dit, de la même façon aujourd'hui, le tombeau de Rabbi Nachman de Breslev, c'est, on sait où il est, mais sa lumière et son importance, il est complètement caché et il est renouvelé, il est recouvert et le monde ne voit pas la grandeur de cela. Et c'est la même chose que Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire c'est la même façon que Moshe Rabbeinu, son tombeau, il est caché, aussi la lumière, elle est engagée. Et il dit ici, il termine, Baruch Hashem, qu'on connaît au moins l'endroit et qu'il y a des gens qui voyagent et qui prient et qu'eux, ils sont méritants. Okay. Je demande, Yehi Ratzon, Milifne Avinu Sheba Shamayim, je demande en toute clarté, toute ma volonté devant Akadosh Baruch Hu, Sheid Galeh Ahemet Baolam, que la vérité se dévoile dans le monde, Vit Parsem Gdushato Baolam, et que sa sainteté se diffuse dans le monde. Et alors la Géoula, elle viendra parfaitement. Bimera, Beyamenu, Amen. Baruch Hashem, on a étudié l'introduction avec l'aide de Dieu. Et maintenant, on va commencer à étudier les premiers propos du Chaye Moharan. Les premiers propos du Chaye Moharan, ce sont les petites histoires et les mots, les paroles qu'il a dit à travers certaines Torah. Alors on va essayer à chaque fois d'expliquer la petite Torah de quoi elle parle et on va essayer de dire ce qui s'est passé plus ou moins à travers la Torah. Et on va lire avec simplicité, Bezrat Hashem, on parlera toujours des petits conseils qu'il y a dans la Torah, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que Akadosh Baruch Hu nous donne la force, qu'on puisse avancer, s'émerveiller, découvrir la lumière, se donner du renforcement, de croire dans les tzadikim, de croire dans Hashem et de croire en nous-mêmes. Et que Bezrat Hashem, on puisse être toujours Bessimcha et en bonne santé et avoir force et courage.
Messieurs, Birkat, Arvit, restez là.
C'est un Chaye Moharan détaillé que tu as, toi? Il y a des explications plus que dans le Chaye Moharan,
non,
c'est classique.
Non, il y a des...
Des petites sources?
Des petites sources, oui, rapport des petites sources. Mais toutes les sources, ça veut dire qu'ils sont écrits dans le Chaye Moharan du Keren en bas.
Ça, tu peux aller les chercher, quoi.
Ouais.
Maïri, monsieur.